Bonjour à tous. Bon, merci tout d'abord d'être venus aussi nombreux ce soir pour la conférence de Jean-Marc Jancovici. Désolée si certaines personnes n'ont pas de place assise, mais malheureusement les locaux sont des places un peu limitées. Il en reste au premier rang. Donc la conférence qui va suivre a été organisée par l'association du Noise d'AgroParisTech. C'est une association qui existe dans 9 antennes de grandes écoles à Paris et à Lyon et qui veut dire Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Donc c'est une association étudiante qui vise à informer, organiser des rencontres, participer à la recherche de solutions et de réflexions autour d'initiatives principalement de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie. Donc ce soir, nous accueillons avec plaisir Jean-Marc Jancovici, qui est très actif dans les domaines du changement climatique et de l'énergie depuis la fin des années 90. Avant de vous laisser donc avec Jean-Marc Jancovici, on voulait vous dire qu'à la fin de la conférence, on vous invite tous à venir prendre un petit pot et un petit verre à la cafette qui est à la sortie vers la droite du centre d'AgroParisTech pour discuter de ce que vous avez entendu, échanger avec les autres et réfléchir ensemble. Donc belle conférence à tous et je laisse la parole à Jean-Marc Jancovici.
Bonsoir. Alors j'ai le plaisir de faire ma première conférence low-tech depuis longtemps parce que mon ordinateur est en arrêt maladie depuis ce matin. Il a décidé qu'il se mettait en grève lui aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il est solidaire avec les gens de la RATP ou de la SNCF. Voilà, donc pas de présentation, donc je vais tout faire avec les mains. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ça sera plus court et que je vais essayer de pallier par les mots ce que j'aurais dû vous montrer avec des images. La bonne nouvelle, c'est que du coup, il y aura plein de temps pour les questions parce que je ne vais probablement pas vous bassiner une heure avec juste un discours. Alors moi, non, mais la personne qui a l'interrupteur, probablement, oui. Le sujet dont je voulais vous parler, enfin dont je vais vous parler soit dit en passant ce soir, c'est l'imbrication du domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire l'agriculture, et de deux domaines que je connais un peu qui sont l'énergie et le changement climatique. Alors avant de rentrer dans l'intervention, les quelques casquettes qui sont les miennes. La plus importante à vos yeux probablement, c'est que je suis père d'une agrelle, mais elle vient de sortir. Donc elle n'est pas là pour raconter des bêtises ce soir. Les quelques casquettes sinon un peu significatives qui sont les miennes, c'est que j'ai fondé en 2007 une société de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui fait aujourd'hui une cinquantaine de personnes, où votre école est très dignement représentée, parce que je crois que vous en avez 3 ou 4. Qui travaillent chez nous et qui tentent de voir ce qu'on peut faire d'intelligent à la frontière de la contrainte énergie-climat, dont je vais un peu vous parler, et du métier des gens qu'on a en face de nous. Et autrement, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme voies et moyens de composer avec la contrainte en question. J'ai également fondé en 2010 une association qui s'appelle The Shift Project, qui est une association qui milite pour la décarbonation de l'économie. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Et enfin, j'ai une troisième casquette qui est que j'enseigne dans la seule école qui, pour le moment, n'a pas encore été déménagée sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire les mines juste à côté. Voilà. J'ai vécu en direct le drame de la fin de Grignon, donc c'est pas la peine de m'en parler. Je connais par cœur. Et puis il m'arrive de faire des interventions à droite et à gauche qui pour recycler un peu ce que je sais. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'agriculture est une activité très très ancienne chez les hommes, puisque c'est ce qui a accompagné la sédentarisation de notre espèce. Hein. Ça fait 10 000 ans à peu près qu'on s'est sédentarisé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la sédentarisation de notre espèce a été le contre-coup de la stabilisation du système climatique terrestre il y a 10 000 ans. Donc il y a 10 000 ans, au cours du quaternaire, c'est-à-dire les derniers millions d'années, le système climatique planétaire a beaucoup varié. Le système climatique varie de toute façon en permanence parce que le système climatique, c'est une grosse machine thermodynamique et les éléments qui permettent à la machine de fonctionner sont eux-mêmes des éléments qui peuvent varier. Par exemple, la puissance du soleil peut varier au cours du temps. La dérive des continents fait que vous avez de la neige ou vous n'en avez pas, de la glace ou vous n'en avez pas là où le soleil arrive, donc c'est plus ou moins réfléchi. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'éléments comme ça qui influent et qui font que le climat varie. Il y a 10 000 ans, la Terre sort de la dernière grande variation climatique que notre espèce ait connue, qui s'appelle une déglaciation. Donc une déglaciation, c'est vous passez de l'ère glaciaire, où la France ressemblait au nord de la Sibérie, en gros, et puis vous n'aviez pas d'Erasmus parce que les Scandinaves étaient sous la glace, de même que les Canadiens, au monde qu'on connaît aujourd'hui, qui est un monde dans lequel, si on ne fait pas les andouilles, il y a des écosystèmes qui sont essentiellement forestiers aux moyennes latitudes et à l'équateur. Et donc ce climat, j'ai envie de dire, interglaciaire, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon des géologues, démarre il y a 10 000 ans et ça permet à notre espèce de sédentariser et de se mettre à pratiquer l'agriculture. Avec l'agriculture sont arrivées tout un tas d'autres pratiques, dont par exemple la comptabilité, parce qu'il fallait compter les troupeaux et les récoltes, et l'écriture, enfin tout un tas de trucs sont arrivés avec ça. Donc l'agriculture c'est ancien. L'énergie c'est encore plus ancien. L'énergie, c'est encore plus ancien pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une grandeur physique dont la définition ne dépend pas de nous. D'accord, l'énergie, on croit que c'est un sujet de débat citoyen. Très bien, c'est probablement vrai. Mais avant ça, c'est une grandeur physique dont la définition ne dépend pas de nous. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop hostiles à la physique, normalement tout le monde dans cette salle, vous vous rappelez probablement que l'énergie, c'est par définition ce qui quantifie le changement d'état d'un système. C'est ça l'énergie en physique, hein, c'est la quantification du changement d'état d'un système. Donc, dès que vous avez un système qui change de température, de forme, de couleur, de vitesse, etc., vous avez de l'énergie qui intervient. Et inversement, dès que quelque chose change dans le monde qui nous entoure, de l'énergie intervient. Alors l'énergie intervient, mais elle intervient jamais seule. Pour se manifester, elle a besoin de ce qu'on appelle un convertisseur. Donc utiliser de l'énergie, en fait, c'est mobiliser un convertisseur qu'on va alimenter avec cette énergie et qui va nous rendre des services sous forme d'une autre énergie. Alors la photosynthèse, par exemple, c'est un convertisseur. Je prends des photons et je vous fais du glucose. Voilà, c'est une conversion. L'homme est un convertisseur d'énergie. Je mange, grâce à la science des agros qui ont permis de faire de délicieux hamburgers, donc je mange, et grâce à ça, je peux fournir de la chaleur, beaucoup, chez les animaux à sang chaud, du mouvement, un peu. Et puis, donc l'énergie est quelque chose qui est présent dans l'univers depuis qu'il y a un univers, hein. L'histoire de l'homme et de l'énergie, en fait, est une histoire très ancienne, puisque depuis que nous existons, nous avons un rapport avec l'énergie, on s'alimente, et donc on fournit de la chaleur et du mouvement. Et la transition énergétique est également quelque chose de très ancien chez les hommes, puisque comme on est des animaux avec une grosse cervelle, on a compris qu'on pouvait essayer de s'approprier l'énergie d'autres choses, pas juste la nôtre et de notre propre corps. Ça fait très longtemps qu'on a compris ça. Alors on a démarré avec le feu, il y a un demi-million d'années, hein, on s'est approprié l'énergie de la combustion, probablement essentiellement pour faire fuir les prédateurs. Et puis avec le temps, on s'est approprié plein d'autres énergies. Alors on s'est approprié l'énergie d'autres convertisseurs biologiques, c'est les animaux de trait et l'esclavagisme. On s'est approprié des énergies renouvelables. Il y a quelques siècles, toutes les énergies que nous utilisions étaient renouvelables. On utilisait la force du vent pour faire tourner les moulins et avancer les bateaux. On utilisait la force de l'eau pour faire tourner des moulins. Il y avait des moulins à eau partout dans l'Antiquité en Europe. Donc on s'est approprié la chaleur du soleil. On faisait sécher la luzerne avec du soleil. Maintenant, il y a des séchoirs à gaz, beaucoup mieux. Mais il fut une époque où les récoltes séchaient essentiellement au soleil. Et donc on s'est approprié toutes les énergies renouvelables. Et puis, donc, soit dit en passant, un monde 100% renouvelable, j'ai au moins un point d'échantillonnage pour savoir que c'est possible. C'est une humanité agricole de 500 millions d'habitants avec 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Voilà. Ça, je suis totalement certain que ça marche puisqu'on l'a fait une fois. Penser qu'on va faire un monde 100% renouvelable avec 8 milliards de bipèdes vivant 70 ans d'espérance de vie à la naissance et achetant un ordinateur à la FNAC pour 1000 euros, c'est moins sûr. Beaucoup moins sûr. Mais j'y reviendrai probablement au moment des questions. Donc on dompte toutes les énergies renouvelables et puis il y a deux siècles, quelques ingénieurs géniaux trouvent qu'on peut encore domestiquer d'autres convertisseurs qui s'appellent des machines. Alors évidemment les moulins et les moulins sont déjà des machines, mais là c'est des machines faites de métal et qui vont être capables d'utiliser encore une autre énergie que votre corps est évidemment pas capable d'utiliser, qui sont des choses qui brûlent. Alors du bois au début, les premières forges utilisaient du bois, du reste on a largement déforesté la France grâce à ça. C'est le charbon qui a sauvé les forêts hein, dans beaucoup de pays occidentaux. Et puis, on s'est mis à utiliser du charbon, qu'on appelle soit dit en passant du charbon de terre au début, par opposition au charbon de bois, puis du pétrole, puis du gaz. Puis de l'hydroélectricité, puis du nucléaire. Alors, j'ai pas mes graphiques favoris pour vous le dire, donc vous allez me croire sur facture, mais l'histoire énergétique des hommes depuis la révolution industrielle n'est pas une histoire de substitution entre énergies. Dit autrement, en valeur absolue, le charbon n'a pas substitué le bois et le pétrole n'a pas substitué le charbon. Tout ça, c'est ajouté l'un sur l'autre. Donc quand vous regardez l'utilisation d'énergie de l'humanité, c'est un empilement d'énergie les unes sur les autres. Et alors pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser de plus en plus d'énergie ? Parce que utiliser de plus en plus d'énergie, à cause de la définition même de l'énergie, c'est transformer de plus en plus le monde qui nous entoure, c'est donc devenir Superman. Utiliser de l'énergie, c'est utiliser à notre profit un nombre croissant de machines qui vont, à notre place, donc vraiment Superman, voir très loin, un télescope, transporter très vite, un camion, un bateau, lever très lourd, une grue, transformer très très vite, un haut fourneau, etc. Donc on est vraiment devenu Superman grâce à l'énergie. Et pour vous donner une idée, qui dans cette salle a déjà mixé de la soupe ? Bon, c'est bien. Eat your own food, comme on dit. Est-ce que vous savez quelle est la puissance d'un mixeur à soupe ? Qui connaît la puissance d'un mixeur à soupe ? Non. Non. C'est le bon ordre de grandeur. 500. Quelques centaines de watts. Est-ce que vous savez quelle est la puissance moyenne d'une paire de jambes en action ? 100 watts. Et je peux vous dire, 100 watts, vous n'êtes pas mauvais parce que vous me faites 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Une paire de bras en action, 10 watts. Donc quand vous avez un mixeur à soupe dans la main, vous avez 3 à 5 cyclistes en train de pédaler dans la main. Qui connaît la puissance d'un aspirateur ici ? Alors qui a déjà aspiré ? Quand même. Non ? Vous êtes crade ? Il y en a plus qui font de la soupe. Un aspirateur, ça fait 1 kilowatt, entre 1 kilowatt et 1 kilowatt et demi. D'accord ? Donc un aspirateur, il pédale comme 10 à 15 cyclistes. Qui connaît la puissance d'un tracteur dans la salle ? Alors là, tous ceux qui ne savent pas devraient aller dehors tout de suite. Alors ? Ouais, un tracteur fait effectivement de l'ordre de 100 chevaux, c'est-à-dire de l'ordre de 70 kilowatts. Alors, si vous êtes céréalier dans la Beauce, vous serez à 150. Si vous avez un petit enjambeur dans une petite parcelle, vous serez plutôt à 30 ou à 20. Mais en gros, vous êtes à quelques dizaines de kilowatts. Ce qui veut dire qu'un tracteur tire aussi fort que quelques centaines de paires de jambes. Il tire aussi fort que quelques centaines de paires de jambes. Là où je veux en venir, c'est que le rapport entre l'énergie et l'agriculture, c'est que l'énergie a permis de diviser par un facteur 20, on va dire 20 à 40, la part des actifs qui travaillent dans l'agriculture. Il y a deux siècles, les deux tiers des Français travaillaient dans l'agriculture. D'accord ? Donc 67% des Français travaillaient dans l'agriculture. Ça veut dire qu'un paysan d'il y a deux siècles, il est capable de se nourrir lui, plus d'une demi-personne qui fait autre chose. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc il n'est pas très productif. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est la part des Français qui travaillent dans l'agriculture ? Ah, ça vous savez. Donc vous avez eu des cours d'économie. Pas d'aspirateur, mais d'économie. Effectivement, 2-3%. Ce qui veut dire qu'on a divisé par 30 la quantité de gens qui travaillent dans l'agriculture. Est-ce que vous savez par combien on a multiplié la production ? Si j'inclus les pâturages globalement par 2 à 3, si je me limite aux céréales, c'est plutôt par 8. Ce qui veut dire qu'un agriculteur aujourd'hui, il est en gros une centaine de fois plus productif que ne l'était un agriculteur d'avant-guerre, moyennant quoi vous mangez du steak à tous les repas avec 20 fois moins de personnes qui travaillent dans les campagnes. Qu'est-ce qui a permis ça ? L'énergie, l'énergie et l'énergie. Voilà, l'énergie. L'énergie a permis ça parce que la force de traction d'un tracteur remplace les animaux de trait qui avaient besoin de surface, qui maintenant sont libérés pour l'alimentation humaine. Parce que les tracteurs libèrent des paires de bras et des paires de jambes qui avant avaient besoin de passer dans les champs pour semer, faucher, désherber, etc. Parce que vous avez d'autres auxiliaires énergétiques qui aujourd'hui travaillent de façon surpuissante dans l'agriculture, qui sont nommément les usines d'engrais et les mines de phosphate et de potasse. Alors les mines, ça fonctionne avec des engins miniers, donc c'est des mines à ciel ouvert, là, comme les mines de lignite en Allemagne, c'est un truc pas très sympathique, avec des grands engins d'excavation. Vous en avez quelques-unes dans le monde, qui alimentent le monde dans son ensemble ensuite. Avant c'était les animaux et les hommes qui pissaient et qui chiaient dans les champs, donc c'était comme ça qu'on recyclait localement l'azote, le phosphore, le potassium. Aujourd'hui c'est plus du tout comme ça qu'on fait, on est tout en cycle ouvert. Et ensuite vous avez un deuxième auxiliaire surpuissant qui sont les transports à l'aval. Alors vous avez également les phytosanitaires, mais c'est moins important. Les engrais, pour ceux d'entre vous qui savent pas, les engrais azotés, c'est fabriqué avec du gaz. Alors il a beau être naturel, c'est une énergie fossile. la façon dont on fait des ammonitrates, hein, on a besoin d'ammoniac. Et pour faire de l'ammoniac, vous commencez par craquer du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel. Mais le pétrole est naturel, le charbon aussi, hein, et les chutes de pierre sont naturelles. Donc, on commence par craquer du gaz. Et avec ce gaz craqué, on récupère l'hydrogène. Et ça, associé à l'azote de l'air, ça vous permet de faire de l'ammoniac. Et c'est le début de la chimie des engrais. Et évidemment, le carbone part dans l'air sous forme de CO2 dans cette histoire. Donc fabriquer de l'hydrogène, qui est le début de la chimie des engrais, ça fait plein de CO2. On sait très bien faire, ça fait plein de CO2. Donc les engrais azotés sont faits avec du gaz, énergie fossile. Le tracteur dans les champs avance avec du diesel, énergie fossile. Et vous avez une énorme dépendance à l'aval également de l'agriculture moderne, qui est qu'un camion sur trois en France transporte quelque chose qui se mange. Le niveau d'autosuffisance alimentaire de l'Île-de-France doit être de l'ordre de 6%. Dit autrement, si demain matin je supprime les camions, vous et je meurs de faim. Mais littéralement, au sens premier du terme. Si on revient aux charrettes à bras et aux carrioles à cheval pour alimenter Paris, Paris peut être alimenté par un disque agricole dont le rayon est une à deux journées de transport à pied ou à cheval. Ça le fait pas, comme dirait l'autre. Ça le fait pas. Aujourd'hui, l'Interland qui permet d'alimenter une mégapole de 10 millions d'habitants, c'est même pas la France, c'est le monde. C'est même pas la France, c'est le monde. Vos fruits et légumes viennent d'Espagne, du Pérou, les avocats viennent du Pérou, plein de trucs viennent du Maroc, etc. C'est le monde, d'accord? Et vous avez une partie, la pêche est faite au milieu de l'océan Indien, enfin, c'est le monde, d'accord? Donc, sans transport abondant, ça ne flotte pas, cette affaire-là. Soit dit en passant, la spécialisation agricole qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire je fais des céréales, mon client c'est un tritureur qui va me faire des aliments pour animaux, puis ensuite on va aller mettre ça dans les sabulations à quelques centaines de vaches, puis ensuite, etc., ça va partir chez Bongrain ou Lactalis pour me faire du fromage, puis etc., ça flotte pas dans un monde sans pétrole, ce truc-là. Ça ne marche pas. Hein. Vous avez besoin de transports intermédiaires à tous les maillons de la chaîne. Hein. Et par ailleurs, alimenter des villes de 10 millions d'habitants, ça ne flotte pas sans pétrole non plus. Alors, je reviens aux villes. Quelque chose qu'on note de manière absolument spectaculaire, donc là aussi, j'ai pas mes graphiques favoris pour vous le montrer, mais croyez-moi sur facture, c'est très logique. À cause de la puissance des engins, des auxiliaires qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture, il y a une loi du genre qui s'observe absolument partout dans le monde aujourd'hui, c'est que plus vous rentrez d'énergie dans un pays, moins il y a de gens dans les champs. Ça marche extrêmement bien, j'ai constaté ça absolument partout. La raison, encore une fois, est logique. Comme la surface cultivable n'augmente pas quand vous amenez de l'énergie, mais que par contre la productivité des agriculteurs augmente de manière faramineuse, eh bien vous êtes capable de libérer des paires de bras qui vont pouvoir faire autre chose. Alors cette autre chose s'exerce où ? Dans les villes. Mais il se trouve qu'avec plein d'énergie, c'est parfait, vous pouvez aussi alimenter les villes avec des transports longue distance. Donc retenez également quelque chose qui est absolument capital, c'est que l'urbanisation est le fait de l'abondance énergétique. Souvent, au début, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie, je pensais que la bonne manière de traiter les villes, c'était de les rendre denses pour que les gens fassent tout à pied et en trottinette électrique, et que comme ça, on allait être sauvés. En fait, non. La bonne manière de gérer les villes aujourd'hui, c'est de les faire dégonfler. C'est-à-dire que 10 millions de personnes en Île-de-France, que ce soit dense ou étalée, c'est pas la question, c'est de toute façon pas vivable dans un monde en contraction énergétique. C'est pas vivable du tout. Les villes, donc l'apparition des villes, c'est le fait de l'abondance énergétique, et on le voit très bien, encore une fois, avec l'évolution que vous avez dans tous les pays qui sont en ce moment en train d'accéder à l'énergie à vitesse accélérée. Quand vous regardez la Chine, quand vous regardez l'Inde, etc., tous ces pays s'urbanisent pour la même raison à chaque fois, c'est-à-dire que l'énergie permet d'amener des auxiliaires aux agriculteurs. Avant les tracteurs, c'était les colliers de trait et les charrues, hein. Mais d'une manière générale, ça permet d'amener des auxiliaires aux agriculteurs, d'amener des transports à l'aval qui sont commodes, etc. Et ça permet donc de mettre les gens dans les villes. Les gens dans les villes vont faire deux choses. Ils vont faire de l'industrie, enfin au début de l'artisanat, puis de l'industrie et des services. Et là aussi, quelque chose qu'il faut sortir de la tête, c'est que beaucoup de services, c'est la marque d'une économie dématérialisée. En fait, c'est l'exact inverse. Quand vous regardez dans le monde quelles sont les émissions de CO2 par personne en fonction de la fraction des services dans l'activité, vous vous rendez compte que c'est parfaitement corrélé positivement. Dit autrement, plus les émissions de CO2 par personne sont élevées, plus la fraction de services dans l'emploi est élevée aussi. C'est logique. Qu'est-ce que les services ? C'est organiser le monde. Du jardin, on aurait presque pu le dire. Organiser le monde. Pour organiser le monde, vous avez besoin de beaucoup de gens si le monde est compliqué avec des tas de flux dans tous les sens. Mais pour que le monde soit compliqué avec des tas de flux dans tous les sens, c'est que vous avez plein de machines qui sont en train de vous créer plein de flux. Donc c'est vous avez un monde sous perfusion d'énergie. Inversement, dans un monde dans lequel il n'y a pas beaucoup d'énergie, vous n'avez pas besoin de beaucoup de services. Alors je vais prendre un exemple tout con, qui est la voiture. Imaginons que je n'ai plus l'énergie pour construire et faire avancer les voitures. J'ai plus besoin de banquiers pour me financer du crédit auto. Dehors, c'est des services. J'ai plus besoin d'assureurs auto. Dehors, c'est des services. J'ai plus besoin de moniteurs d'auto-école et de monitrices. Dehors, c'est des services. J'ai plus besoin d'agents de circulation. C'est dans la rue. Dehors, j'ai plus besoin non plus de personnes pour encaisser les PV. Bonne nouvelle pour vous. Enfin bref, vous voyez qu'il y a tout un tas de professions dans cette affaire, sans parler de tous les employés du ministère des Transports qui régulent, qui font la sécurité routière, etc. Donc tout ce pan de services disparaît et à la limite, j'ai même plus besoin des médecins qui sont aussi dans les services pour soigner les accidents de la route. Donc vous voyez bien que sur la base d'un flux industriel qui est celui de la fabrication de voitures, en fait, j'ai empilé tout un tas de services. Alors je vais prendre un autre exemple qui est cet amphi. Nous sommes ici dans un lieu où on enseigne. Vous allez dire l'enseignement c'est totalement dématérialisé. Ouais, sauf que qui ici n'a besoin jamais d'aucun moyen de transport pour se rendre dans cet amphi dans la semaine. Voilà, donc tous les autres, ils ont besoin d'un bout de métal qui s'appelle un transport. Tous. Et qui est tout à fait le résultat d'un produit industriel. Qui dans cette salle n'a pas d'ordinateur ? À part moi, dont le mien est tombé en rade. Là, je suis le seul qui peut tout de suite qui peut lever la main. Fabriquer un ordinateur, c'est une demi-tonne de CO2. C'est des mines, c'est de la métallurgie, c'est de la chimie, c'est des transports intermédiaires, c'est de l'industrie manufacturière, etc. Et aujourd'hui, dans l'enseignement, sauf moi qui tente de faire sans ce soir, vous en avez besoin. Vous portez tous des vêtements. Du reste, il est interdit de se balader tout nu en France, sauf, m'a dit ma fille, dans sa... Mais bon, j'en parlerai pas plus loin. Vous avez besoin de vêtements. Même pour venir en cours, vous avez besoin de vêtements. Ces vêtements ont été fabriqués par une armée de machines. D'accord ? Entre les machines qui étaient présentes dans les champs pour cultiver le coton et le lin, les machines qui étaient présentes sur Terre pour extraire du pétrole, parce que tous les gens qui portent une fibre synthétique ici portent du pétrole. Voilà, donc tous les trucs en poly machin chouette, le nylon, etc., tout ça c'est du pétrole. Donc vous avez eu besoin de plateformes pétrolières, de raffineries, de vapocrackers, de tréfileurs, de métiers à tisser, d'extrudeurs, etc. Enfin bon bref, vous avez une armée de machines qui s'est mise avant. Faire de l'enseignement sans que les gens puissent venir à poil et au surplus sans bâtiment, qui est aussi le produit de l'industrie en hiver quand il flotte, je pense que l'enseignement, il y a un peu moins de gens que ça intéresse. Donc vous voyez bien que toutes les activités, même les activités dites de service, en fait, dépendent de flux industriels sous-jacents. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont besoin de lunettes, enfin moi pour voir de près, certains d'entre vous pour voir de loin, c'est pareil, c'est un produit industriel. D'accord ? Donc pas de lunettes, l'enseignement c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez bien que la séparation entre service et industrie est une séparation totalement artificielle, de même que la séparation entre agriculture et le reste est une séparation artificielle aussi, parce que si on mange plus, tout le reste n'existe plus. Hein. J'ai entendu quelques économistes distingués m'expliquer que l'agriculture c'était 2% du PIB en France, donc c'était pas très grave si on en avait moins. Alors je me suis dit que si les premiers à mourir de faim c'est les économistes, effectivement il avait raison. Ce que je viens d'essayer de vous dire avec les mains, c'est que l'énergie, c'est-à-dire les machines, donc partout où vous entendrez énergie, à partir de maintenant, vous barrez le mot et vous remplacez par machine. D'accord ? Consommer de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. C'est donc accroître la taille de notre costume d'Iron Man. C'est ça, hein, utiliser de plus en plus d'énergie. Alors ce costume, vous l'avez pas sur vous, hein. Le laminoir de Fos-sur-Mer, vous le portez pas sur votre dos en ce moment. En attendant, vous bénéficiez tous de ce qu'il fait pour vous. Hein. L'énergie a totalement façonné le monde qui nous entoure et c'est notamment ça qui fait que vous avez le temps d'étudier à l'agro plutôt que de ramasser des patates. Je vais vous le dire encore autrement. Dans l'ancien monde, avaient le temps de réfléchir les rentiers. Donc c'est pas un hasard que tous les grands scientifiques d'il y a 2-3 siècles ou plus aient été des rentiers. C'était tous des barons de machin, des comtes de bidule, que des rentiers. Pourquoi ? Parce que c'était les seuls qui étaient détachés des contingences quotidiennes, qui n'étaient pas éreintés après une journée passée dans les champs et qui avaient le temps de phosphorer un peu. Aujourd'hui, tous les employés de bureau, ils ont une activité de type rentier. D'accord ? Ils passent leur journée à phosphorer, dégager des contingences matérielles immédiates. Ils n'ont pas besoin de tisser leurs vêtements, ils n'ont pas besoin, etc. Et on a reproduit le modèle de l'ancien temps, sauf qu'au lieu d'avoir des serfs ou des esclaves ou des paysans qui bossent pour nous, on a les machines. Dans l'ancien temps, les démocraties athéniennes et romaines, c'était une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. C'était les esclaves dans les campagnes qui leur fournissaient leur nourriture. Eh bien, les démocraties modernes, c'est pareil, sauf que c'est une poignée d'humains libres au milieu d'une armée d'esclaves. Cette armée, elle n'est pas neutre, parce que si à l'instant où je vous parle, vous regardez quelle est la puissance du parc de machines en fonctionnement sur Terre, donc au moment où on se parle, il y a des tas de machines qui sont en train de fonctionner sur Terre. Des laminoirs, des satellites, des bateaux qui sont en train d'avancer, des trains qui sont en train d'avancer, des camions qui sont en train de rouler, des chaudières qui sont en train de chauffer, etc. Eh bien, au moment où je vous parle, la puissance de la totalité du parc de machines sur Terre qui est en train de fonctionner, c'est des centaines de fois la puissance musculaire de l'humanité. Donc la capacité productive des hommes, grâce à l'énergie, a été multipliée par un facteur de plusieurs centaines comparé à ce que nous serions capables de faire avec nos seuls muscles. C'est ça l'énergie. C'est ça l'énergie. Donc un débat citoyen sur l'énergie, moi je veux bien, mais en fait c'est un débat citoyen sur ce que nous sommes, sur la totalité de ce que nous sommes. Hein. Et penser que les débats sur l'énergie sont des débats techniques où on va coller à un ingénieur dans un coin, fut-il agro, de choisir entre une éolienne et un bout de centrale nucléaire, c'est avoir totalement raté l'objet du débat. Hein. L'objet du débat, c'est que l'énergie, c'est ce qui a fait de nous des surhommes. Alors, l'énergie a donc alimenté l'agriculture. L'agriculture, en retour, de temps en temps, on se demande si elle ne peut pas alimenter l'énergie, notamment au travers des cultures énergétiques. Alors, il se trouve que je sors tout juste aux ateliers du Shift d'un exposé absolument passionnant qu'on va mettre en ligne d'un chercheur du LID, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui se trouve, sauf erreur de ma part, à Paris 7. Alors, je vous donnerai pas son nom parce qu'il a un nom grec imprononçable. Je me rappelle juste qu'il est grec et barbu et chevelu, mais à part ça. Mais on va mettre ça en ligne dans quelques semaines. Et en fait, il a fait un exposé qui montre magistralement que l'agriculture, dans un monde entre guillemets renouvelable, ne pourra pas contribuer à la fourniture énergétique des hommes. Elle pourra les nourrir, point. C'est-à-dire, une fois que vous avez supprimé les engrais fossiles, la mécanisation fossile issue des, etc., vous ne pourrez pas sortir de la biomasse en quantité massive pour faire une chimie renouvelable, une aciérie renouvelable, une industrie renouvelable et une cimenterie renouvelable. D'accord ? Les rendements et le nombre de gens sur Terre n'autorisent pas ça. Donc si on était 50 millions sur Terre, ça passerait peut-être, mais à quelques milliards, ça passera pas. C'est intéressant comme point de vue. Hein. Y a un dernier point donc qui est maintenant la question du climat. Donc l'agriculture bénéficie de l'énergie, mais l'agriculture impacte également, comme vous le savez, le climat. Alors dans l'agriculture, a un premier lien avec le climat, c'est que si on émet moins de gaz à effet de serre avec moins de mécanisation, ça va impacter le système agricole. Si vous avez par exemple moins de transport de marchandises, parce que vous avez moins de pétrole, ça va nécessairement impacter le système agricole. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous aurez besoin de déspécialiser les régions agricoles. Vous ne pourrez pas faire toutes les betteraves ici, toutes les vaches là, toutes les céréales là et toutes les pêches ici. Il va falloir un peu plus. Mais c'est exactement ce qu'on avait en France, la polyculture élevage, avant d'avoir les tracteurs et les engrais à gogo. C'est exactement ça qu'on avait. Hein. Et c'est pas un mystère qu'on soit parti dans l'autre sens. Donc l'agriculture également un contributeur au changement climatique. Alors le changement climatique, je vais quelques bases. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le climat a toujours varié, simplement les échelles de temps de cette variation sont absolument capitales pour savoir si c'est quelque chose de désagréable ou pas. Pour prendre un parallèle tout de suite, vous avez deux manières de décélérer de 100 km/h à zéro quand vous êtes en voiture. La première, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, ça prend 10 secondes. La deuxième, c'est de rentrer dans un mur, ça prend quelques millisecondes, le résultat n'est pas le même. Eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne les variations du climat. Le climat varie, il a toujours varié, simplement pour les variations qui sont en train d'être mises en route en ce moment, la question cruciale est celle des échelles de temps par rapport aux variations spontanées du système. Le climat peut varier pour plein de raisons. Historiquement, au Quaternaire, la première raison pour laquelle le climat a varié, c'est que le système solaire n'est pas un ménage à deux, donc très pacifique, mais un ménage à 10, donc très turbulent. Et en particulier, la Terre est soumise à l'attraction des grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, un peu moins Uranus et Neptune. Et donc l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil n'est pas une ellipse régulière. Elle a des petites variations au cours du temps. Et ces variations, c'est à la fois une variation d'excentricité, elle est plus ou moins allongée, et une variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, c'est plus ou moins incliné. Et quelque chose que vous allez comprendre tout de suite, c'est que si l'axe était parfaitement perpendiculaire au plan de l'orbite, on n'aurait jamais de saison. Hein ? L'insolation serait la même tout au long de l'année, donc il n'y aurait pas de saison. Plus l'axe est incliné sur le plan de l'orbite, plus les saisons sont marquées. Cette inclinaison est un des éléments qui détermine de manière capitale l'entrée ou pas en glaciation à l'ère quaternaire. Hein ? Il y en a d'autres, mais celui-là joue de manière très forte. Donc le climat varie, encore une fois, il est toujours varié. Ce qui est en train de se passer à l'Anthropocène, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'homme qui est devenu un agent climatique, c'est que l'homme est en train de devenir la première cause de variation du climat à l'échelle du siècle. C'est ça qui est en jeu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en augmentant un phénomène parfaitement naturel qui est là depuis des milliards d'années, qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, qui est un processus qui a été identifié par Fourier, Joseph de son petit nom, il y a deux siècles maintenant, enfin 1824, on y est presque, est un effet qui est dû au fait que vous avez dans l'atmosphère des molécules qui sont parfaitement transparentes au rayonnement solaire incident et parfaitement opaques au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Si vous avez fait un peu de rayonnement du corps noir avant de rentrer ici, vous savez que le spectre d'émission d'un corps dépend de sa température. Alors le soleil, qui a une température de surface à 6000 Kelvin, nous envoie essentiellement du visible et de l'infrarouge proche. La Terre, qui a une température de surface qui est proche de 300 Kelvin, émet essentiellement des infrarouges lointains. Eh bien, dans l'air, vous avez plein de gaz, tous les gaz triatomiques ou plus, en gros, qui sont des gaz qui interceptent les infrarouges terrestres. Donc la lumière du soleil, enfin ou le rayonnement solaire avec les infrarouges visibles, les infrarouges proches passent à travers l'atmosphère, moins la part qui est réfléchie par les nuages, la glace, etc., est absorbée par le sol, et le sol, lui, en réponse, émet des infrarouges dans des grandes gammes, dans des longueurs d'onde beaucoup plus importantes. Ces infrarouges sont absorbés près de la surface par les gaz à effet de serre, qui sont donc des opacifiants aux infrarouges que l'atmosphère a en petite quantité, comme le permanganate de potassium opacifie l'eau quand vous en mettez dans une baignoire. Pareil. Avec les émissions de gaz à effet de serre, nous augmentons l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons confiner l'énergie près du sol et de ce fait augmenter la température d'équilibre du sol. Mais nous allons également corrélativement refroidir la stratosphère parce qu'il y a moins d'énergie qui peut aller être absorbée, moins de rayonnement qui peut aller être observé dans la stratosphère. Et ça vous explique tout de suite une chose très simple, soit dit en passant. C'est que si vous avez une température près du sol qui augmente et une température de la stratosphère qui diminue, vous augmentez le gradient de température dans l'atmosphère et donc vous augmentez la puissance convective de tout ce qui convecte, je ne sais pas si on dit ça, de tous les mouvements convectifs dans l'atmosphère. Et donc les orages, les tornades, les ouragans, la pompe aspirante devient plus puissante. Donc c'est très logique que vous ayez trouvé dans le dernier rapport du GIEC que dans un monde qui se réchauffe, la puissance des ouragans va augmenter. C'est parfaitement normal, c'est un truc qui est attendu. On se pose également la question pour les orages et les tornades, comme je l'ai dit juste avant. Ce réchauffement climatique, il est donc provoqué par une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces gaz peuvent s'accumuler dans l'atmosphère, notamment le CO2, pour une raison chimique de base. C'est pas à vous que je vais apprendre que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. C'est pas non plus à vous que je vais apprendre que vous ne pouvez pas le dissocier chimiquement sans apport d'énergie. Si vous tentez de faire pousser des plantes dans un endroit, dans un placard pas éclairé, ça marche pas bien. Peut-être que vous avez fait l'expérience, c'est sûr que ça marche pas. Donc la photosynthèse est un processus endothermique. Vous avez besoin d'un photon. Vous avez besoin d'un apport d'énergie qui va vous dissocier la molécule de CO2 parce que la liaison est très forte. Et d'une façon plus générale, tous les oxydes sur Terre sont des molécules très stables. Hein, tous les minerais métalliques, par exemple, se trouvent sous forme d'oxyde dès lors que le métal peut s'oxyder. Donc les oxydes étant des molécules très stables, une fois qu'on a mis du CO2 dans l'atmosphère, il n'y a pas de processus chimique spontané d'épuration. C'est la raison pour laquelle le CO2 peut s'accumuler dans l'atmosphère, c'est qu'il n'y a pas de processus chimique d'épuration. Vous avez deux processus d'épuration, l'un est physique, c'est une dissolution dans l'océan, ça se fait à la surface de contact, c'est un équilibrage de pression partielle, c'est un processus physique. Et en plus, c'est un processus qui est ralenti quand le climat se réchauffe parce que la capacité de l'eau à dissoudre du CO2 diminue quand l'eau se réchauffe. Hein? Donc c'est un puits qui va s'affaiblir avec le temps, voire même qui pourrait se renverser. Et vous avez un deuxième processus d'épuration, je viens de vous en parler, donc c'est la photosynthèse. Donc le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et une constante de temps qu'il faut garder en mémoire parce que c'est absolument crucial pour le débat sur le changement climatique. Si demain matin, on arrête les émissions dans le monde, eh bien le surplus de CO2 que nous avons créé, il n'y en a que 60% qui sera parti dans un siècle. Il en restera encore 20% dans 1000 ans et 10% dans 10 000 ans. Donc vous avez un processus fondamentalement irréversible en ce qui concerne le changement climatique. C'est comme le vieillissement, c'est fondamentalement irréversible. Je peux pas me dire à mon âge, ah bah merde, j'aurais pas dû faire l'X, j'aurais dû faire l'agro, allez hop, reset, je me retrouve à 18 ans et je change de voie. Ça marche pas. D'accord, ça marche pas. Donc le changement climatique, c'est exactement pareil. À cause de cette constante de temps, du temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il n'existe pas de possibilité de remise en état du système. C'est une notion qui n'existe pas dans le débat sur le changement climatique. Donc si un jour, comme Petit Gibus, on dit « si j'avais su, j'aurais pas venu », trop tard. Et, voilà. Et la seule garantie que nous avons dans ce débat, la seule en ce qui concerne le changement climatique, c'est que si un jour l'expérience se met à nous déplaire pour de bon, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que plus tard, ça sera pire. C'est important d'avoir ça en tête, hein. C'est parce qu'on n'est pas du tout des animaux câblés pour être capables de réagir à ce genre de problème. Parce que je vous rappelle, et vous le savez à toutes les mensuelles, nous sommes des animaux. Alors, si je suis un tout petit peu plus sérieux, nous sommes des animaux, c'est-à-dire que nous sommes gouvernés par nos sens. Notre rapport à l'environnement se fait au travers de nos sens. Nous sommes, et nos sens sont court-termistes et instantanés. Enfin, immédiats, et, enfin, locaux et instantanés, pardon. Donc, mes sens me permettent de dire quelle est la température qui fait dans cette pièce tout de suite. Mes sens ne me permettent absolument pas de dire quelle est la température qui fait en Australie à l'instant où je vous parle. Et encore moins la température qui faisait en je sais pas où, à Vladivostok il y a 6 mois. D'accord? Mes sens ne me permettent pas de dire ça. Ma cervelle, oui. C'est plus compliqué. Mes sens, non. Donc tout ce qui relève de la moyenne, du etc., c'est pas avec nos sens qu'on peut l'approcher, c'est avec une approche intellectuelle, mais on n'est pas fait pour ça. Et par ailleurs, le mode d'apprentissage qui a été le nôtre, comme tous les animaux qui sont gouvernés par leur sens, est un mode essai-erreur. Alors le mode essai-erreur fonctionne très bien dans les situations réversibles, sauf pour les quelques-uns qui font une erreur tellement grave qu'ils y passent. Voilà, ça a toujours été le cas dans tous les représentants d'une espèce animale. Donc de temps en temps, il y en a qui font une expérience qu'ils n'auraient pas dû faire. Crac, ils y passent. Les autres le voient, ils se disent « je vais peut-être pas faire la même chose ». Mais donc, vous avez un apprentissage de type essai-erreur. Mais quand vous n'avez pas droit à l'erreur, comment vous faites? Parce que dans cette affaire-là, on n'aura qu'un seul essai. Donc on n'aura pas droit à l'erreur. Enfin, ou plus exactement, si on s'est trompé, ben après, perdu quoi. Et c'est très très difficile, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est très très difficile de lutter contre ses sens et de faire prévaloir la partie gauche ou droite, je sais jamais, de sa cervelle, c'est-à-dire celle qui vous a permis de rentrer ici. C'est très difficile. Donc le changement climatique est un phénomène à très très forte inertie. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur sur ce que ça veut dire, ce changement climatique. Le premier ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que 5 degrés, que vous avez évidemment en tête comme étant la fourchette haute, enfin maintenant on parle de 6 à 7, mais du réchauffement climatique, en fait c'est la même chose que ce qui correspond à une transition glaciaire-interglaciaire. Donc quand la France est passée d'un paysage qui ressemblait au nord de la Sibérie, il y a 20 000 ans, à l'état qu'on lui connaissait dans l'ère pré-industrielle, et presque encore maintenant, il y a 10 000 ans, eh bien le climat ne s'est réchauffé que de 5 degrés sur la planète. Donc 5 degrés en un siècle, c'est un réchauffement 100 fois plus rapide que celui qui a vu l'océan remonter de 120 mètres en 10 000 ans, les écosystèmes devenir ceux qu'on connaît aujourd'hui alors qu'ils étaient ceux du nord de la Sibérie, et une calotte de glace de 3 km d'épaisseur posée sur la Scandinavie et le Canada disparaître. Hein, 5 degrés en 10 000 ans. Donc 5 degrés en un siècle, c'est évidemment quelque chose, c'est un chaos, c'est un choc extrêmement violent. Alors dans les évolutions qualitatives auxquelles il faut s'attendre, d'abord, il faut savoir que la température ne va pas monter de manière homogène. L'inertie thermique des continents étant plus faible, elle montera plus vite sur les continents que sur les océans. Donc si vous avez un réchauffement global de 2 degrés, ça sera 3 sur les continents. Ensuite, ça ne va pas être vrai également pour les extrêmes. 3 sur les continents, ça veut dire 5 à 6 pour les extrêmes. Donc ce n'est pas du tout proportionnel cette affaire-là. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement climatique va globalement augmenter l'évaporation, donc augmenter les précipitations. Par contre, la science la plus moderne permet de dire deux choses, c'est que ça sera encore plus mal réparti qu'avant, c'est-à-dire ceux qui en ont beaucoup en auront encore plus, et ceux qui en ont pas beaucoup en auront encore moins. Et donc dans ceux qui en ont pas beaucoup, qui en auront encore moins, le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. Je vous signale qu'on est dedans. Hein. Donc nous, on est du mauvais côté de la barrière dans cette histoire. Hein. Les Anglais vont se faire inonder plus souvent, les Scandinaves aussi, et la mousson sera plus violente. Mais une mousson plus violente sur des sols plus secs, ça ne sera pas nécessairement très intéressant pour les cultures indiennes. L'indice de sécheresse des sols va augmenter dans nombre de zones, et notamment en France. Donc on a toutes les chances en France d'ici 2050, c'est-à-dire quand vous aurez mon âge, que la sécheresse que nous ayons connue cet été soit l'état moyen des sols en France. Ça va pas être terrible, hein. Ça va pas être terrible, hein. J'en vois un qui lève le sourcil. Ça va pas être terrible. Il est évident que dans ce genre de paysage, une bonne partie des forêts disparaissent, parce que nous avons aujourd'hui des arbres qui ont quand même un peu besoin d'eau, qui aiment pas trop quand il fait trop sec, qui aiment pas trop quand il fait trop chaud. Et qui aime pas trop les incendies non plus. Et par exemple, en 2050, la capacité de la forêt de Fontainebleau à développer des incendies sera la même que celle des Landes aujourd'hui. Dans les autres joyeusetés auxquelles il faut s'attendre, l'océan va monter. Alors l'océan va monter pour deux raisons. La première, c'est que quand vous chauffez l'eau, elle se dilate. Et donc si vous chauffez l'eau qui est dans une grande baignoire sans toucher au fond, eh bien le niveau de l'eau monte. Mais c'est pas ça qui va faire le plus monter l'eau. Ce qui va faire le plus monter l'eau, c'est l'atteinte aux calottes polaires. Alors le Groenland a commencé à fondre dès à présent, et à partir de maintenant, vous n'avez que des rétroactions positives qui vont amplifier la chose. La première rétroaction positive, c'est que, comme vous le lisez probablement dans la presse, l'étendue de la banquise a tendance à diminuer de plus en plus. Or, quand la banquise disparaît, vous remplacez une surface très réfléchissante par une surface très absorbante pour le rayonnement solaire, et donc la température qui environne la calotte groenlandaise a tendance à s'élever encore plus vite. La deuxième chose, c'est que la fonte de la calotte est une fonte de surface. C'est pas des icebergs qui se déversent dans la mer. Pour l'essentiel, c'est une fonte de surface. Après, l'Antarctique de l'Ouest, c'est autre chose, je vous en parlerai. Comme c'est une fonte de surface, quand ça fond, le niveau de la calotte, enfin, l'altitude maximale de la calotte baisse un peu. Et du coup, vous vous rapprochez d'un air ambiant qui est un peu plus chaud. Puisque quand vous descendez en altitude, vous savez que, à cause de la détente adiabatique, la température augmente. Et donc, la température environnante augmente. Dernier point, la surface du Groenland est couverte de poussières qui sont amenées par le vent. Quand vous êtes dans un processus dans lequel vous avez accumulation annuelle de poussière, mais de neige qui recouvre la poussière, c'est pas grave. Mais quand la neige se met à fondre, à ce moment, les poussières sont concentrées en surface et elles augmentent aussi l'albédo, c'est-à-dire la capacité d'absorption du rayonnement solaire de la calotte. Donc, il n'y a que de rétroactions positives dans cette affaire. Donc, d'ici à ce que l'humanité s'éteigne, quelques siècles, le Groenland va continuer à fondre. Et ça, c'est n'importe quoi, entre 3 et 6 mètres d'eau dans l'océan. Quelques siècles. De l'autre côté, il y a une instabilité majeure qui a été mise en lumière par la communauté scientifique il y a maintenant quelques années, qui est celle de l'Antarctique de l'Ouest. Alors l'Antarctique de l'Ouest, bon, il n'y a pas d'Ouest en Antarctique puisque c'est centré sur le pôle Sud normalement. L'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui regarde le Chili, qui est en face du Cap Horn, vous savez, avec cette espèce de grand doigt là qui remonte vers le Chili. C'est une partie qui est détachée de l'Antarctique de l'Est par deux indentations qui sont les mers de Ross et de Weddell. Et elle porte, cette Antarctique de l'Ouest, une calotte qui est posée sur un socle rocheux totalement sous-marin, en déclivité, et c'est un vaste système de glaciers en arc-boutant les uns sur les autres. Et les arc-boutants terminaux, c'est les glaciers qui se déversent dans la mer. Alors tant que ces glaciers qui se déversent dans la mer se déversent pas trop vite, ils jouent leur rôle d'arc-boutant par rapport aux glaciers qui sont au-dessus. À partir du moment où ces glaciers qui se déversent dans la mer se déversent beaucoup plus vite, et c'est ce qui est en train de leur arriver en ce moment, les arcs-boutants finaux sont fragilisés et tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Alors, en combien de temps? Il y a 3 ans, il y a un papier qui a fait grand bruit, qui est sorti dans Science, qui disait, en quelques siècles, dès qu'on a passé 2 degrés. Donc dès que le réchauffement dépasse, dès que la Terre est sur une trajectoire de réchauffement qui dépasse les 2 degrés en 2100, ce qu'on est évidemment parti pour faire, eh bien, le risque de déstabilisation existe. Et la science la plus récente dit maintenant, quelques siècles, on ne sait pas. Ça peut être plus court que ça. Et là, il y en a pour 6 mètres d'eau. Donc, 6 plus 3 plus la dilatation, on est en train de jouer en ce moment, donc ça ne va pas arriver la semaine prochaine, mais le doigt sur la gâchette, c'est tout de suite. On est en train de jouer en ce moment avec 10 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. 10 mètres d'eau en plus, vous n'avez plus une ville côtière, vous avez plus, enfin si, vous avez des villes côtières surélevées. Donc si vous êtes en haut de la montagne où il y a la bonne mer, la Notre-Dame de la Garde à Marseille, vous n'êtes pas inondé. Mais il n'y a plus un port. Donc c'est parfait, les routes maritimes seront ouvertes parce qu'il n'y a plus de banquise, mais il n'y a plus de port pour partir et arriver. Posera un petit problème. Vous avez énormément d'installations qui sont situées en bord de mer et vous avez évidemment, ce que vous savez, énormément de plaines alluviales qui sont des endroits majeurs pour l'alimentation humaine. Hein, le delta du Nil, le delta du Gange, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc tout ça, et bien avant que ça fasse 10 mètres, ça sera salinisé à cause de la pression osmotique, parce que quand la mer monte, ça vous salinise les nappes phréatiques qui sont situées en dessous. Toujours dans les joyeusetés, vous allez avoir une pression supplémentaire sur les écosystèmes, mais enfin il faut bien voir que la première pression sur les écosystèmes, c'est 8 milliards de bonshommes, hein, de très très loin. Parce que la première pression sur les écosystèmes et la biodiversité, c'est la perte d'habitat, et la première cause de perte d'habitat, c'est la suppression des écosystèmes installés pour faire des cultures. Donc on a 2 problèmes si on aime bien la biodiversité qui s'appellent la taille de la population et son régime alimentaire. Donc on a deux sujets de préoccupation si on aime bien la biodiversité qui s'appellent le planning familial et manger moins de viande. C'est à peu près ça, les déterminants de l'affaire. Toujours dans les conséquences, vous allez évidemment avoir après des conséquences sociales et politiques à large échelle. Alors dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, qui l'a lu ici? Vous êtes tous virés. Vous êtes à l'agro et vous n'avez pas lu ça. Un scandale. Non mais je plaisante pas. Non, si je plaisante, mais quand même c'est un scandale. Si vous avez une lecture à avoir dans l'école dans laquelle vous êtes, c'est celui-là. C'est celle-là, pardon. Donc lisez le résumé pour décideurs. Changement climatique et terre, ça fait 35 pages. Vous devriez y arriver. C'est vraiment un truc qui est absolument crucial compte tenu de la filière qui est la vôtre. Absolument crucial. Donc dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, le GIEC dit à partir de 3 à 4 degrés de réchauffement, il y a de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Alors vous vous rappelez peut-être de 1789. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1788? Ah, ça c'est bien, vous savez. Un demi-million à un million de morts. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé juste avant? Inflation alimentaire intolérable. C'est ça qui s'est passé juste avant. Dans des pays qui sont en insuffisance alimentaire locale, c'est des pays qui sont obligés d'importer leur nourriture, l'Égypte, la Tunisie, et ça va en augmentant parce que le bassin méditerranéen s'assèche alors que leur population croît. Et les importations agricoles ont des prix qui varient très largement comme ceux du pétrole. En 2010, très forte remontée des prix du pétrole. Donc les pays qui importent de la nourriture voient leur facture alimentaire augmenter. Mais 2010, on est dans l'aftermath de la crise de 2009. Et donc les touristes restent chez eux. Donc les recettes à l'exportation de ces pays, l'Égypte et la Tunisie, se sont cassées la gueule. Moins de recettes, plus de charges. On n'est pas capable de compenser budgétairement, enfin de compenser le prix de la nourriture pour les gens qui sont dans les 3, 4, 5 premiers déciles de revenus, qui vivent avec $1 par jour, et c'est l'émeute, parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Et en fait, des émeutes de la faim au moment où le prix du pétrole est repassé par des sommets, vous en avez eu dans plein d'endroits dans le monde. Alors aujourd'hui, on est encore avec une agriculture très productive, des combustibles fossiles de partout, des engrais de partout, etc. Tout ça n'est pas éternel. Il est évident que quand vous aurez une agriculture avec des sols plus secs et des intrants en quantité moins disponibles, avec une population censée être plus nombreuse, oui, on est d'accord, on lève le sourcil une deuxième fois. C'est pas complètement sûr que tout ça va être un long fleuve tranquille. Hein. Et donc il y a également des instabilités politiques qui sont à la clé, et donc dans les risques du réchauffement climatique, vous en avez aussi un qui s'appelle la dictature. Et même en France, la démocratie en France, c'est récent. Pendant les milliers d'années que notre pays a hébergé des hommes, il s'est passé un siècle en démocratie. D'accord ? Donc c'est court, et c'est pas éternel. Je suis pas en train de dire que je souhaite sa disparition. Je suis juste en train de dire, c'est pas éternel parce que c'est un système fragile, et c'est notamment un système fragile parce que c'est un système court-termiste. Pas moi qui l'a dit, c'est Monsieur Tocqueville il y a deux siècles, et il s'était pas trop trompé. Donc voilà. Donc le changement climatique, c'est un processus à large échelle. L'insécurité sur l'approvisionnement énergétique, c'est aussi un processus à large échelle. Alors je vais finir par ça. Dans cette affaire-là, donc à ce stade, vous avez compris plusieurs choses. Si on a été capable de mettre tout le monde en ville avec une agriculture très productive, c'est grâce à l'énergie. Cette énergie fait que on a été capable de monter à 8 milliards d'hommes bien nourris, raisonnablement, sauf quelques endroits sur Terre, parce que justement, on a été capable de rendre l'agriculture beaucoup plus productive, alors que la Terre n'a pas augmenté de diamètre. Hein. On fait toujours la même surface qu'il y a. La dérive des continents n'a pas fait apparaître une quantité de surface cultivable supplémentaire majeure en deux siècles. Vous comprenez également qu'on a un tout petit sujet avec l'instabilité climatique. Alors l'agriculture contribue, soit dit en passant, au réchauffement climatique, puisque dans les émissions de gaz à effet de serre, à peu près un tiers, si je prends en compte la déforestation, vient du secteur agricole. Alors les émissions de gaz à effet de serre concernées, vous les trouvez dans la déforestation, c'est 10% sur 30%, hein. Et le reste, c'est les émissions, enfin les émanations plus exactement de méthane des rizières. Vous savez que dans les rizières, vous avez de la décomposition anaérobie de résidus organiques à l'abri de l'oxygène de l'air, donc ça vous fait du méthane, comme dans les marécages. C'est la fermentation entérique des bovins. Les cochons ont 4 estomacs, dégueulasse. sauf quand on en fait des tripes. C'est les déjections animales, pour partie. Et enfin, c'est la réduction des nitrates qui s'opèrent quand vous épandez des engrais azotés dans les champs et qui vous produit un gaz qui s'appelle du N2O, du protoxyde d'azote, qui est aussi le gaz qu'on vous avait peut-être fait respirer quand vous étiez gamin à l'hôpital, le gaz hilarant, qui est un anesthésiant léger. Donc l'agriculture, au travers de toutes ces émissions-là, contribue au réchauffement climatique, et les émissions directes du secteur agricole, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, c'est autant que les centrales à charbon dans le monde. Donc c'est pas complètement négligeable. Hein. C'est peut-être moins, comment dire, c'est peut-être plus indispensable que les centrales à charbon, soit dit en passant, mais c'est quand même 20%. Donc l'agriculture a un lien avec l'énergie et le changement climatique qui est extrêmement intime. Hein. Sa productivité vient de l'énergie. Le fait qu'on ait pu mettre les gens bien nourris dans les villes, c'est l'énergie. L'agriculture contribue au changement climatique et le changement climatique, en retour, va faire du mal à l'agriculture, globalement. Hein. Donc voilà le paysage dans lequel on est. Et comme j'ai pas de slide, je m'arrête là. Donc maintenant, place aux questions. Et la bonne question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens que la nourriture va coûter plus cher. Est-ce que vous savez par combien a été divisé le prix de la nourriture en Occident sur un siècle ? Quatre ? Vous êtes très en dessous. Plutôt entre 10 et 30. Alors, petit raisonnement. En 1930, alors je vous donne ça pour les Américains, parce que, alors je suis désolé de dire du mal des Français, mais quand vous voulez trouver une série longue sur le site de l'INSEE, vous mettez un quart d'heure à pas trouver ce que vous vouliez, alors que quand vous allez chez les Américains, en deux clics de souris, vous trouvez. Donc je suis désolé, je vais vous le dire pour les Américains, mais c'est pareil en ce qui concerne les Français. En 1930, Madame Michu et Monsieur Michu dépensent pour se nourrir un quart de ce qu'ils gagnent. Un quart. C'est déjà beaucoup moins qu'en 1800. Ou comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez un agriculteur qui pouvait nourrir 1,5 personnes. Ce qui revenait à dire que monsieur et madame Michu dépensaient les deux tiers de ce qu'ils gagnaient dans la nourriture. Hein ? Mais donc en 1930, mais en 1800, je suis désolé, l'équivalent américain de l'INSEE fait pas de stats. Donc bon, 1930. Donc monsieur et madame Michu dépensent 25%. Qu'est-ce que c'est à l'époque que l'alimentation de monsieur et madame Michu ? Alors je suis désolé de tenir ces propos sexistes dans une école à dominante féminine, mais je vais les tenir quand même. Donc c'est essentiellement Madame Michu qui va acheter aux paysans d'à côté ou au marché local des produits bruts, des poireaux, des œufs, du poulet, des pommes de terre, etc. et qui fait le frichti pour Monsieur Michu qui part au champ ou à l'usine. Hein, c'est ça la façon dont l'alimentation se présente. Vous avez un peu de restauration hors domicile. Mais à l'époque, c'est quelques pourcents de ce que les gens gagnent, et évidemment, c'est très inégalement réparti, c'est zéro chez le paysan, et c'est 80%, enfin c'est 100% du temps chez Monsieur Rockefeller, qui est mort du reste à cette époque-là. Donc il ne mange que des vers de terre naturels. En 2000, en fait 2010, l'alimentation de Monsieur et Madame Michu leur coûte 10%, de ce qu'ils gagnent. Alors effectivement, la première réponse que j'ai entendue est la bonne. Ça a été divisé par 2,5. Mais en fait, pas du tout. Quand vous passez la caisse d'un magasin que je ne nommerai pas, là vous allez à Machin Market, histoire de pas dire qui est Machin, dans la rue d'à côté, et vous sortez avec votre ticket de caisse. L'INSEE dit c'est une dépense alimentaire. Mais qu'est-ce que vous avez acheté en vérité ? Vous avez acheté des boîtes en carton, vous avez acheté le salaire de la caissière, vous avez acheté le salaire du magasinier, vous avez acheté le salaire du conducteur de camion qui vous a amené la marchandise, vous avez acheté le salaire des ouvriers qui ont mis les pâtes dans les boîtes de pâtes, vous avez acheté, etc. Vous avez acheté tout sauf la nourriture que vous allez manger. Alors un exemple tout con, ça normalement vous devriez connaître la réponse, quel est le prix d'une boîte d'eau dégueulasse pas bio au supermarché ? Ah, je vois que c'est cela que vous achetez, c'est pas bien. C'était un piège. 1,50€. Allez. Est-ce que vous savez quel est le prix de l'œuf en sortie de ferme chez l'éleveur intensif breton ? 6 centimes. Ah, bravo. Combien font 3 fois 6 ? C'est bien, vous suivez. 18 centimes les œufs. Zéro transformation. On les a pas cuits, on les a pas hachés, on les a pas... Rien. Juste les œufs, on les a mis dans une boîte. 1,50€. D'accord ? Donc vous êtes passé de 20 centimes pour en ordre de grandeur, à 1,40€ en ordre de grandeur x 7. Vous n'avez acheté que autre chose que des œufs. Mais l'INSEE vous dit, votre ticket de caisse, c'est votre dépense alimentaire. Alors moi, je vous dis non, non. Votre dépense alimentaire, c'est 10% de votre ticket de caisse. D'accord ? Donc le ticket de caisse aujourd'hui, pour la partie achat de nourriture, qui représente 5% des dépenses des ménages, en fait, c'est pas 5% que vous coûte l'alimentation, c'est 1%. D'accord ? Maintenant, imaginez, parce que vous êtes des CSP+, que vous en avez marre d'acheter les œufs au supermarché, que vous allez manger une omelette au café d'en face. Il paraît que le café d'en face est fameux pour ces omelettes. C'est une information que je tiens de première main. Et donc, vous avez, combien est-ce que vous allez payer votre omelette au café d'en face? Ouais, 5, 6 euros. 6 euros. Donc, voilà. Et il y a combien d'œufs dans une omelette? 3. D'accord? Donc, je suis à 18 centimes, 20 centimes. Pour un truc que vous allez payer 5 euros. Et l'INSEE met aussi la restauration hors domicile dans la nourriture. Donc là, je dis, moi, ça vaut rien. Ça vaut pas. C'est ça, quelques pourcents de ce que vous dépensez en moyenne, hein, 5%. Moi, ça, je dis ça, ça vaut zéro. Donc on est passé de 25% qui était vraiment de l'alimentation, en totalité de l'alimentation, à 1 à 2% qui représente la part de la nourriture dans le ticket de caisse que vous allez laisser au magasin. Donc là, je suis bien à une division par 20. Et en plus, par rapport à l'américain, alors l'américain, je sais pas, mais le français de 1930, vous mangez 3 fois plus de viande. Donc le prix de la protéine animale, lui, il n'a pas été divisé par 20, il a été divisé par 60. Donc la première chose qu'il faut dire aux gens, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'ils vont payer plus cher pour manger moins de viande. Voilà. S'il y a d'autres questions, ou si vous avez soif et que vous voulez dire... Non, il y a d'autres questions, quand même. Ah ah, si je savais. Alors je vais être un peu provocateur. Je pense que les Chinois ont un système qui est plus proche de quelque chose qui permet de gérer le long terme que nous. Mais c'est un peu coercitif. D'une manière générale, l'exercice parfait de la liberté individuelle suppose une absence de limite. Puisque ça suppose que tout ce que vous allez pouvoir faire en plus ne gênera pas l'aptitude des autres à faire également quelque chose en plus. Donc ça ne peut s'appliquer que dans un monde en croissance, c'est-à-dire dans un monde sans limite. Et soit dit en passant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, aucun système contraint de l'ancien monde n'était démocratique. La démocratie athénienne et romaine, c'est une illusion, parce que ça s'appliquait à une toute petite partie de l'élite. C'était l'élite qui était démocratique. Très bien. Bon. Mais la masse ne l'était absolument pas. Donc tous les systèmes du monde contraint de l'ancien temps sont des systèmes dictatoriaux ou assimilés, ça s'appelait la monarchie absolue. Alors est-ce que c'est ça qu'il faut souhaiter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui nous pend au nez dans un monde dans lequel on ne gère pas la contrainte de la meilleure manière possible? Alors ça, j'en suis certain. Est-ce qu'on arrive maintenant à trouver un système mixte qui permet de gérer collectivement la contrainte en la trouvant supportable, peut-être. Soit dit en passant, il y a aussi un truc qui est très intéressant et que Tocqueville avait bien pointé du doigt. Dans les systèmes monarchiques anciens, les gens n'étaient pas nécessairement plus malheureux qu'aujourd'hui, bien que plus limités, parce qu'ils étaient fatalistes. C'est-à-dire, ils considéraient que leur condition de naissance était leur condition normale et qu'il n'y avait pas à envier les nobles, parce que de toute façon, c'était un truc qui n'était pas fait pour eux, qui ne le serait jamais, et que c'est comme vous enviez pas la condition de l'arbre, parce que manifestement, vous ne serez jamais un arbre, quoi. C'était exactement ça. C'était beaucoup plus répandu dans la population. Mais c'est clair que ça pose le problème du système pertinent. Et alors, il y a au moins une chose contre laquelle on peut essayer de lutter tout en restant dans un monde démocratique, c'est ce que j'essaye de faire à ma modeste échelle, c'est d'avoir une population qui finisse par être suffisamment informée pour dire « j'accepte la contrainte, donc quand est-ce que vous la mettez intelligemment en place ?» C'est ce qu'on a eu avec le tabac, par exemple. C'est-à-dire qu'à force de comprendre que le tabac, c'était pas terrible, la population dans son ensemble accepte la contrainte, et par exemple, dans cet amphi, il est aujourd'hui interdit de fumer, je pense qu'il y a 50 ou 60 ans, c'était pas le cas. En tout cas, moi, j'ai connu des salles de classe où il était autorisé de fumer pour l'enseignant. Donc c'est ce qui peut vous paraître très étonnant à juste titre à vous. Et j'ai connu des compartiments fumeurs dans les trains, j'ai connu des compartiments fumeurs en avion, même si c'est pas bien de prendre l'avion, etc. Enfin voilà, j'ai connu tout ça. Il faut arriver exactement à la même chose quelque part en ce qui concerne cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre où sont les limites, arriver à comprendre comment est-ce qu'on peut les gérer de la manière la moins douloureuse possible ou la plus enthousiaste possible, et à ce moment réclamer ou dire qu'on est d'accord avec la contrainte. Alors si, c'est utopiste de penser qu'on va informer tout le monde, c'est absolument évident. C'est aussi tout aussi utopiste de penser que tout le monde va passer entre les gouttes. Hein. Ça me paraît évident qu'il va y avoir des épisodes douloureux. Mais quelque part, plus on procrastine, et plus ça va être douloureux. Donc je suis sûr que dans cette salle, vous connaissez toutes et tous Greta Thunberg, parce que c'est votre génération, et elle a un discours qui, de mon point de vue, est parfaitement fondé. C'est-à-dire dire il y en a marre que vous procrastiniez, c'est parfaitement fondé. Vous avez aussi évidemment entendu, puisque je crois que l'agro a le plus fort taux de signataires, parler du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Moi je connais bien une partie des initiateurs, pas ceux chez vous mais ailleurs. C'est également quelque chose qui est un facteur de pression très utile, donc continuez, qui est un facteur de pression sur les gens de ma génération. Parce que vous êtes nos enfants, quoi, donc on écoute un peu.
Ouais. 1, 2, ça fonctionne. Je rebondis sur cette question. Ça marche ou pas?
Si, ça marche, je vous entends très bien.
Okay. J'ai du mal avec les micros. Je rebondis sur cette question de l'éducation. Est-ce que vous travaillez avec Carbone 4 ou autre de vos fonctions avec justement l'éducation nationale pour essayer d'intégrer ça dans un programme niveau collège, lycée, enfin le plus tôt étant le mieux?
Alors on a commencé par la cible la plus facile, qui est l'enseignement supérieur. C'est la cible la plus facile pour deux raisons. La première, c'est que la décision de modification des programmes dans un établissement d'enseignement supérieur est une décision qui relève de l'établissement. Donc si demain matin, la direction de l'agro décide qu'il change les cours à l'agro, ça dépend de la direction de l'agro. Voilà. Donc c'est relativement facile à faire. La deuxième raison pour laquelle on s'est attaqué d'abord à l'enseignement supérieur, c'est parce que le niveau de maturité qu'il faut pour comprendre les notions dont je viens de parler à l'instant... facilite l'assimilation. Plus on est âgé et qu'on a déjà compris un certain nombre de choses, plus c'est facile de parler de ce problème qui est un problème de système, d'optimisation sous contrainte et de limites. C'est des trucs qui sont plus compliqués à faire comprendre à des gens qui sont plus jeunes. Donc les gens qui sont plus jeunes, la tentation va être très grande de leur donner trois recettes de moulinettes à tourner, alors que la chose véritablement importante, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là. De comprendre l'imbrication systémique de l'affaire, j'ai pas fini, et de comprendre les voies et moyens et les contreparties des voies et moyens. L'enseignement secondaire a un double inconvénient pour nous, c'est un mammouth comme disait l'autre. Changer les programmes dans l'enseignement secondaire, il faut passer par 3 ans de négociations, 2 ans de grève et je sais pas quoi, donc on n'est pas rendu. Vous avez un sujet de formation des enseignants ou de modification de l'enseignement qui est beaucoup plus compliqué. Moi, il se trouve que j'enseigne aux mines. Je suis arrivé aux mines comme vacataire. C'est-à-dire que le directeur des études m'a dit un jour, tiens, j'ai envie d'un cours sur le sujet. Hop, viens ici, tu fais un cours. Voilà. Du reste, je me suis dit moi-même, c'est ça le processus de sélection des profs, dis donc. Mais oui, ça a été ça le processus de sélection des profs. Donc c'est une décision qui est très rapide à prendre. Et si demain matin il pense que la biodiversité c'est beaucoup plus important que l'énergie et le changement climatique, il me dit Jean Covici, on t'a assez vu, et l'année d'après ils prennent un vacataire pour faire autre chose. Donc c'est très très simple dans ces établissements de se débarrasser des enseignants dont on veut plus, parce qu'ils enseignent un truc qui vous intéresse pas. Dans l'éducation nationale c'est un peu plus compliqué. Donc tout ça pour dire qu'au Shift, comme on est une petite équipe, la réponse est oui, on s'y est attaqué, est paru dans le JDD, dans le journal du dimanche, il y a très exactement une semaine, plus ou moins 3 jours, une tribune signée de 80 dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur. Alors je peux vous le dire, parce que le dernier à signer a été le président de l'IX, l'avant-dernier a dû être le président de l'agro, enfin le directeur de l'agro. Mais c'est pas grave, il a signé quand même, et donc... Bon, ben, les grands sont toujours priés. Mais encore une fois, le président de l'IX, c'était le dernier. Donc. Il y a 80 dirigeants d'établissement qui ont donc signé une tribune en disant on va faire des choses chez nous et on demande à l'État de nous faciliter la vie. Et du reste, je rebondis sur l'histoire du manifeste. Donc maintenant qu'il a signé ça, votre directeur, comme tout, etc., foutez-lui la pression. Vous pouvez y aller. l'enseignement secondaire, ça va être long et lent. Ça viendra aussi avec des enseignants. Les enseignants du secondaire sont formés dans le supérieur. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, on a choisi de démarrer par le supérieur. Et encore une fois, on est 10, on n'est pas 500. Sinon, on aurait peut-être fait autre chose.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur le secondaire, est-ce qu'il y a vraiment besoin, là c'est peut-être un peu ambitieux, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer le problème au secondaire? Je prends comme exemple, pendant longtemps, il y a eu une sensibilisation autour de l'utilisation de l'eau, par exemple, de l'utilisation de l'électricité. On n'a jamais expliqué aux enfants pourquoi, si ce n'est que c'était bien ou pas bien.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sensibilisation avec trois recettes presse-bouton, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est d'éveiller les consciences et d'éveiller les esprits et de faire comprendre comment ça marche. Alors sur ce genre de truc, c'est très compliqué. Par contre, vous pouvez quand même ne pas leur apprendre des âneries. Je suis sûr qu'on voit la fonction d'utilité en économie dès le secondaire. On peut supprimer ça des programmes, ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça rendra les gens plus intelligents. Donc il y a des aménagements dans le sens de la suppression qui sont des aménagements qui peuvent parfaitement être faits quand même. Hein.
Mais je peux parler une dernière fois ou pas? Je ne suis pas si sûr que ça ait si peu de valeur dans la mesure où...
C'est pas une question, ça. Il y avait plein de mains. Alors ouais, il y a un biais classique dans ce genre de truc, c'est qu'on a tendance à se limiter à son champ visuel. Alors moi, je sais que j'ai vu plein de mains se lever au fond là depuis un moment, et moi, mon champ visuel ne va que là, donc il y en a probablement de l'autre côté aussi.
Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire par rapport au manifeste étudiant. Quand vous dites continuer à se faire pression, c'est très utile. Est-ce que vous pensez que dans une optique où on demande quand même de la décroissance quand on a fini de faire le tour des questions énergétiques, ça fait vraiment sens de s'adresser notamment à des organismes privés qui sans croissance souvent n'existeraient plus?
Alors vous pouvez demander deux choses j'ai envie de dire, n'ont pas besoin de statuer sur la question que vous venez de me poser. La première, c'est vous pouvez demander à ce que les programmes incluent de manière croissante une capacité à comprendre les sujets dont je viens de parler. Ça veut dire des programmes qui incluent de manière croissante la vision système, la compréhension de l'interdépendance du système agricole avec ailleurs, et qui vous permet de voir un peu loin et qui vous permet de comprendre qu'une société comme Danone, quoi qu'elle en dise, elle n'a pas d'avenir dans un monde sans pétrole. Parce que vous n'avez pas de possibilité d'avoir une multinationale de 100 000 personnes qui collecte du lait partout avec des camions, qui fabrique des yaourts dans quelques usines centralisées, qui distribue partout dans des supermarchés dans lesquels les gens ont besoin d'aller en voiture, etc. Ça ne marche pas. Bon. Ça vous empêche pas d'aller chez eux, mais juste vous savez où vous mettez les pieds. Et j'ai rien contre Danone. Il y a des gens très gentils, très sympathiques qui... voilà. Mais c'est juste pour dire la structure elle-même. Vous comprenez bien qu'elle est fortement instable. Voilà. Les deux choses que vous pouvez faire, donc, c'est demander à ce que l'enseignement s'enrichisse, et le manifeste a cette utilité aussi. Je le sais pour l'X, ce qui a fait bouger le président de l'X, c'est le fait que les étudiants, s'ils le manifestent et commencent à dire, c'est un sujet qui nous importe. Donc le simple fait de le dire fait que derrière, l'enseignement deviendra plus riche sur ce qui vous permet de mieux comprendre le problème. Et si vous avez envie de vous en occuper, l'enseignant que je suis aussi pense que c'est pas idiot que vous le compreniez mieux. Bon. La deuxième chose qui a un effet évident, c'est que ça déplace le temps que va y consacrer l'état-major d'un certain nombre de grandes entreprises. Alors je ne sais pas si c'est le cas à l'agro, mais je peux vous dire qu'aux mines, la part des jeunes diplômés qui partent dans les grands groupes a chuté de moitié entre 2013 et 2017. De moitié, d'accord ? Je ne suis pas en train de parler d'une variation marginale, de moitié. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec le sujet que j'évoque. Cela étant, depuis 2013, moi je les ai tous eus, donc je ne sais pas si c'est un lien avec ce que je raconte. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des modifications de comportement. Et ça a un effet, ça suffira pas probablement pour sauver le monde, mais ça a un effet positif qui est que, vous savez, tant qu'il n'y a pas une entreprise, n'innove que sous la contrainte. C'est bien, je suis chef d'entreprise. Donc ce qui fait bouger une entreprise, c'est la contrainte de la concurrence, la contrainte qui déplace les envies de ses clients, la contrainte de ses salariés, notamment ceux qu'elle a envie de garder, qui lui disent « si tu fais des trucs qui me déplaisent, moi je vais aller voir ailleurs le temps qu'il fait », la contrainte de la puissance publique et de la réglementation, etc. Donc ce qui fait bouger une entreprise, ça n'est que des contraintes. D'accord ? Donc quand les entreprises disent « ne nous mettez pas de contraintes », ça n'a pas de sens. Si vous voulez qu'elles bougent, il en faut une. Bon. Il faut la bonne, mais par contre il en faut une. Donc le manifeste est une contrainte. Ça dit, mais oui, ça dit, si vous voulez qu'on vienne bosser chez vous, faites au moins semblant de vous intéresser à la question.
Mais justement, est-ce que bon. Ça ne fait pas que faire semblant ?
C'est le... Non, je peux vous assurer que moi, j'ai quelques clients à Carbon 4, alors ils ne sont pas en train de faire la révolution, encore que. Mais il y a eu un phénomène discret entre il y a un an et aujourd'hui. Et je pense que le manifeste joue là-dedans. Je ne dis pas que c'est 100% de ce qui s'est passé. Je pense que ça joue là-dedans. Je pense que Greta Thunberg joue là-dedans. C'est-à-dire que tous les dirigeants, ils ont des enfants de votre âge. Donc il y a probablement quelques discussions de temps en temps qui sont devenues un peu plus animées. C'est sûr. Non mais c'est absolument certain. Donc c'est et on le voit bien du reste. Aujourd'hui, les réactions qu'il y a vis-à-vis de cette personne sont des réactions à côté de la plaque, puisque au lieu de juger le message, on juge le messager. On s'en fout du messager. Je veux dire, elle a le mérite d'exister. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce qu'elle raconte. Et ce qu'elle raconte, c'est des conneries ou pas des conneries. Le messager, on s'en fout. Son histoire personnelle est par ailleurs touchante, mais c'est pas le messager qui compte, c'est le message. Donc ce manifeste, il fait remonter le bruit aux oreilles des entreprises, de la puissance publique, qui peut donc se dire « Ah, bah si je colle une contrainte aux entreprises, il y a un certain nombre de gens qui vont pas s'arrêter de voter pour moi. » Et ces gens sont par ailleurs des prescripteurs d'opinion, parce que vous vous apprêtez à faire partie des corps intermédiaires qui sont des prescripteurs d'opinion. Hein ? Bah oui. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question qui est est-ce que les entreprises vont nous militer alors que vont nous recruter alors qu'on milite pour la décroissance ? La réponse est oui, pour certaines, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont profiter de la décroissance. Si aujourd'hui vous êtes une AMAP en vente directe, vous profitez de la décroissance parce que vous permettez à vos clients d'acheter en direct avec tous les intermédiaires qui ont disparu. D'accord ? Donc, ou bien vous achetez de l'AMAP pas bio, en général ils font quand même bio, mais et à ce moment vous payez moins cher qu'au supermarché, ou bien vous achetez à l'AMAP bio et à ce moment vous payez le même prix qu'au marché. Je sais parce que j'ai fait les comparaisons partout. Qu'au supermarché, pardon, j'ai regardé, donc il n'y a pas tellement de différence. Donc, là vous avez des gens qui vont bénéficier de la contraction globale du système. Le fait qu'il y ait moins de camions pour transporter va bénéficier à ces gens-là. Bon. Si le gaz vaut plus cher, les gens qui vendent de la laine de verre pour isoler les combles font de meilleures affaires. Donc vous avez, et en fait, c'est ces gens-là qui nous intéressent au chiffre, soit dit en passant, parce que comme je suis un grand cynique à l'âge que j'ai parfaitement compris qu'on ne faisait pas avancer une cause sans s'appuyer sur les gens à qui elle bénéficie. Bon. Eh bien, les gens à qui ça bénéficie, cette affaire-là, c'est les gens qui vont profiter de l'évolution globale du système. Et vous savez, une contraction, c'est pas une suppression. Donc même si le système productif est divisé par 2 ou 3, il reste encore quelque chose. Et il y a plein de gens qui sont prêts à jouer pour faire partie de ce quelque chose. D'accord ? Donc c'est, voilà, donc c'est pas la disparition de toutes les activités. Ça se focalise. Mais je le redis, l'effet à court terme, c'est que il y a un certain nombre de gens qui se disent « Oh, il faudrait que je commence à regarder ça ».
Peut-être pour revenir sur le sujet de l'agriculture et l'énergie, pour vous, c'est quoi un modèle agricole dans lequel il y a une contraction sur l'énergie ? Ça ressemble à quoi ?
Alors, c'est un modèle qui disposera d'une plus grande difficulté à avoir un débouché aval important, enfin géographiquement large de ses produits. Donc, ça veut dire que vous devrez trouver votre zone de chalandise plus près, avec moins d'étapes de transformation. Donc je disais tout à l'heure, le maïs passe chez un transformateur d'aliments, qui passe chez le cochon, qui passe lui-même dans une découpe, dans un abattoir, qui passe dans une découpe industrielle, qui passe je sais pas où, qui passe au supermarché, qui, enfin bon bref, donc ça se raccourcira. C'est une agriculture qui sera plus sobre en gros animaux, parce qu'elle sera nécessairement moins productive, parce que ce qui aujourd'hui permet de rendre les cultures très productives, c'est le fait qu'on ait explosé le cycle de l'azote, hein. C'est le fait que vous ameniez des amendements de synthèse en grande quantité. Si vous avez juste les amendements des animaux qui défèquent dans les champs, ça suffit pas. C'est une agriculture avec des exploitations qui sont globalement plus diversifiées. C'est une agriculture dans laquelle vous récupérez des services écosystémiques qui avant vous débarrassaient d'une partie des maladies et des ravageurs, c'est-à-dire les oiseaux, la compétition entre insectes, etc., donc avec des haies. enfin, ou des endroits où il y a des bestioles qui puissent se mettre, parce que ça vous mange une partie des prédateurs. C'est une agriculture dont, comme je disais tout à l'heure, les produits en sortie vont valoir plus cher, nécessairement. Voilà. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait depuis qu'on a mis des combustibles fossiles dans l'agriculture, c'est-à-dire plus spécialisée, plus exportatrice, plus productive. C'est exactement l'inverse de ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça arrive en une semaine. Par contre, je ne crois que marginalement au fait qu'on va avoir des tracteurs autonomes robotisés qui vont se nourrir avec les limaces qui bouffent dans les champs. Je ne crois pas trop. Et juste pour finir, et c'est une agriculture qui réintègre de la force de travail. Je suis totalement convaincu du fait que le monde dématérialisé, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas des employés de bureau qui ressortent le soir avec le pli du pantalon impeccable. Le grand paradoxe, c'est qu'une économie plus dématérialisée est une économie dans laquelle il y a plus de travail manuel.
Donc vous avez parlé de la contraction énergétique. Qu'est-ce que vous voyez comme solution Vous avez parlé de l'éolienne, du nucléaire. Comment est-ce que vous...
Alors je vais déjà commencer par vous rappeler qu'elle est déjà là en Europe, cette contraction énergétique. L'énergie que nous utilisons aujourd'hui dans le monde est à 80% constituée de combustibles fossiles. Les combustibles fossiles portent bien leur nom puisque c'est des restes fossilisés de vie ancienne. La manière dont le pétrole et le gaz se sont constitués, c'est vous avez du plancton et des micro-algues qui ont fait des résidus organiques mélangés à du sédiment minéral près des côtes en général. Par la tectonique des plaques, ce truc-là est enfoui sous le sol et la géothermie vous cuit ça, vous distille ça à petit feu jusqu'au moment où ça vous exsude du gaz et du pétrole qui vont, dans les bons cas de figure, se concentrer dans des roches poreuses qui sont situées au-dessus. Il faut 50 à 400 millions d'années pour que ça se passe, donc c'est un peu lent pour que ce soit renouvelable. Le charbon, c'est les fougères qui ont poussé à l'ère du charbon au carbonifère, donc il y a quelques centaines de millions d'années, 300 si ma mémoire est bonne, qui se sont fossilisés avec le même processus et qui donnent aujourd'hui des veines de charbon. 80% c'est de l'approvisionnement énergétique, c'est des combustibles fossiles. Le fait de passer à autre... Alors pardon, ces combustibles fossiles sont épuisables. D'accord. Comme ils se renouvellent en 50 à 400 millions d'années, la vitesse à laquelle on tape dedans ne leur permet pas de se reconstituer. Et là, vous avez un petit théorème de maths qui vous dit que quand vous tapez dans un stock de départ qui ne peut pas se reconstituer, l'extraction de votre stock suit un bicorne de polytechnicien. Là, ça part de zéro, ça passe par un maximum et ça repasse à zéro. C'est vrai, soit dit en passant, pour le pétrole et le gaz, mais c'est vrai pour le minerai de cuivre et c'est vrai pour l'argent. D'accord. Tout ce qu'on peut sortir de la croûte terrestre et qui n'est pas renouvelable aura un pic à son extraction annuelle. C'est une nécessité mathématique. Il se trouve qu'en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de roche-mère, le pétrole et le gaz qui est resté prisonnier dans la roche-mère qui l'a vu naître avant de migrer vers une roche-réservoir. Et tout ce qui n'est pas les sables bitumineux, c'est-à-dire ce qu'on a au Canada et qui est du vieux pétrole qui a migré en surface, qui a perdu ses éléments volatiles dans une roche qui était du sable, donc ça vous fait du sable mélangé à du bitume. Eh bien, tout ce qui n'est pas les sables bitumineux et le pétrole de roche-mère, la production mondiale a décliné depuis 2008. Qui en avait déjà entendu parler? Vous êtes beaucoup mieux informés que la population française. Et pourtant, toutes les mains doivent se lever. C'est le déclencheur direct de la crise des subprimes. C'est le déclencheur direct de la crise des subprimes. Je n'ai pas mes graphiques aujourd'hui pour vous le montrer, mais j'ai des enregistrements vidéo sur Internet. Vous irez voir la démonstration dessus, en basse résolution. Bah oui, sinon ça fait trop de pollution numérique. Donc le pétrole conventionnel dans le monde décline depuis 2008. Alors le pétrole non conventionnel, pour le moment, il fait plus que compenser le déclin. Mais dans ce non conventionnel, on a du mal à savoir ce qu'il y a exactement, parce que vous avez du vrai pétrole, vous avez du faux pétrole, des liquides de gaz, etc. Donc c'est un peu difficile d'y retrouver ces petits. L'alimentation européenne en pétrole décline depuis 2006. Donc de 2006 à 2014, ça décline. De 2014 à 2018, c'est reparti dans l'autre sens. C'est la raison pour laquelle Hollande a vu la courbe du chômage s'inverser sur la fin de son mandat et Macron a vu la courbe du chômage s'inverser sur le début de son mandat. Ni l'un ni l'autre n'y sont pour quoi que ce soit. C'est juste que l'approvisionnement européen en pétrole est reparti dans l'autre sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle les émissions de CO2 des transports sont reparties dans l'autre sens. Même cause, deux effets différents. Donc l'Europe décline en pétrole depuis 2006 et ça va recommencer à s'inverser dans pas longtemps. L'approvisionnement européen en gaz décline depuis 2005. À l'époque, en 2005, 60% du gaz européen vient de la mer du Nord, qui a passé son pic en 2005. Donc depuis, l'approvisionnement européen en gaz décline. L'approvisionnement européen en charbon décline depuis au moins 1980, donc bien avant les sujets de changement climatique, parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines de charbon en Europe, et donc le déclin géologique, enfin le début du déclin géologique est passé depuis longtemps. 1914, je crois, en Grande-Bretagne, 1950, je crois, en Allemagne. Enfin bon, voilà, donc c'est, y a longtemps que c'est passé. Charbon, pétrole et gaz font aussi 80% de l'approvisionnement énergétique européen. Aussi. Hein. Et soit dit en passant, pour l'énergie qui rentre dans les machines en France, les combustibles fossiles font les 3/4. Donc vous avez tous lu dans le journal qu'on était un pays tout nucléaire. Non, on est un pays à dominante nucléaire dans l'électricité, mais si je regarde toutes les machines qui fonctionnent en France, 3/4 de l'énergie qui les alimente, parce que dans ces machines, il y a aussi des voitures, des camions, etc. 3/4 de l'énergie qui les alimente, c'est des combustibles fossiles. Hein, en France aussi. Donc l'approvisionnement européen en charbon décline, l'approvisionnement européen en gaz décline, l'approvisionnement européen en pétrole décline, et comme 0 plus 0, ça fait toujours la tête à Toto, l'approvisionnement énergétique européen décline. Donc nous, la contraction énergétique, on y est déjà. D'accord ? Et en fait, toute la zone OCDE y est déjà. Le Japon y est aussi, même les États-Unis y sont d'une certaine manière. Bon. Et c'est ça qui explique le marasme économique dont ces pays n'arrivent pas à sortir, malgré les inondations de milliers de milliards par la Banque centrale, et malgré tout ce qu'on peut mettre comme petit trou dans le droit social pour essayer de faire en sorte que les gens bossent pour moins cher. Malgré tout ça, le truc continue à être en plein marasme. Dans cette affaire-là, que peuvent les sources non fossiles ? Alors, dans les sources non fossiles, vous en avez deux. Vous avez les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors, en fait, je devrais dire les nucléaires, parce qu'il y a plusieurs manières d'exploiter l'énergie nucléaire. Il n'y en a pas qu'une. L'une comme l'autre ont quand même un peu besoin quand même des énergies fossiles. Les énergies renouvelables ont besoin des énergies fossiles parce qu'il faut fabriquer le collecteur de l'énergie renouvelable. Il faut fabriquer le barrage, si c'est de l'hydroélectricité. Il faut fabriquer la chaudière, si c'est une chaudière à bois. Et pour celles qui viennent à l'esprit de tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux solaires, eh bien, il faut de l'énergie fossile pour faire la métallurgie et la chimie qui vont permettre de fabriquer des panneaux et des éoliennes. Et soit dit en passant, il faut beaucoup plus de métallurgie pour faire des éoliennes et des panneaux solaires que pour faire des modes traditionnels de production électrique, parce que vous avez 50 fois plus de métal nécessaire pour produire un kilowattheure éolien ou solaire que vous n'en avez besoin pour faire un kilowattheure avec une centrale à gaz, à charbon ou même nucléaire. Donc vous avez des besoins en métaux qui sont considérablement accrus. Et en fait, c'est ce qui fait dire à des gens comme moi que de déployer des énergies type éolien ou solaire pour pallier les énergies fossiles butera sur une autre limite physique qui est le besoin en ressources métalliques. Et du coup, ça va se traduire économiquement par le fait que les investissements nécessaires sont absolument faramineux. L'Allemagne a déjà mis quelques centaines de milliards d'euros dans ses éoliennes et ses panneaux solaires. Un, ça lui a pas permis de se débarrasser des centrales préexistantes qu'elle conserve pour quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent. Donc elle a gardé les centrales, enfin elle a un peu moins de nucléaire, un peu plus de gaz, mais en gros elle a gardé les centrales préexistantes. Et elle a rajouté par-dessus des éoliennes et des panneaux solaires pour quelques centaines de milliards d'euros. Ça a que marginalement baissé les émissions allemandes. Donc c'est un truc qui va demander des dizaines de milliers de milliards d'euros avant qu'on en voie le bout. Je veux dire, donc on va pas y arriver avec le solaire et l'éolien. Le nucléaire, on va pas y arriver non plus dans les temps impartis. Alors déjà, c'est une très mauvaise idée de s'en séparer là où il y en a déjà. Donc je fais partie des gens qui pensent que de s'en séparer en France, c'est la dernière des conneries à faire, qu'on a plus urgent, beaucoup plus urgent à faire ailleurs. Je peux revenir sur les dangers du nucléaire si ça vous intéresse, mais j'étais venu faire une conférence là-dessus ici, qui doit être filmée il y a quelques années, donc vous pouvez ressortir les archives. L'inconvénient majeur du nucléaire, c'est que c'est un système lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous donnez le top départ et le moment où vous avez une série de centrales qui est disponible, il faut compter 20 à 30 ans. La construction en version crash programme des centrales en France, qui a démarré dans les années 70, elle s'est terminée en 1990 quelque chose. Et c'était en version crash programme, un truc qu'on ne serait plus capable de faire politiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a eu le dialogue entre le président d'EDF à l'époque, qui s'appelait Marcel Boiteux, qui ne l'est pas du tout, question de cervelle, je peux vous assurer, et le premier ministre de l'époque, qui était Pierre Messmer, je me rappelle, enfin, Boiteux me l'a dit, donc je me rappelle très bien. Messmer lui dit, monsieur le président, combien est-ce que vous pouvez faire de réacteurs par an si vraiment je vous demande de pousser tous les boulons, tous les feux à fond? Boiteux réfléchit, lui dit, bon, allez, au maximum, je peux en faire 6. Et Messmer de lui répondre, très bien, vous m'en ferez 7. Non. Aujourd'hui, on n'imagine pas Macron disant à Lévis, vous allez me faire 7 réacteurs, vous allez me démarrer 7 réacteurs par an. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Affreux produit nucléaire, machin, etc. Bon, ouais. En plus, EDF, c'est pas faire, ce qui est parfaitement vrai. Aujourd'hui, ils sauront refaire, mais aujourd'hui. Donc c'est un système qui est lent. C'est ça le problème. Donc là où il y en a, faut le garder. Là où on peut le développer, faut évidemment le développer parce que ça allège la peine sur le reste. D'accord. Donc ça fait partie des parachutes ventraux, on va dire. C'est beaucoup plus économe en métal et en espace que les nouvelles énergies renouvelables. Là aussi, il faut 1000 fois plus d'espace pour faire du solaire que pour faire du nucléaire à production équivalente. Donc vous avez un petit sujet avec le solaire, c'est qu'aujourd'hui, pour déployer les panneaux, on est obligé de bouffer sur des surfaces agricoles et sur des forêts. Avec ce que je viens de vous raconter, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc vous avez des besoins importants. Les deux seules énergies renouvelables dans le monde, pour finir là-dessus, qui continuent à jouer un rôle important, c'est la biomasse et l'hydroélectricité. Et donc c'est des énergies pour lesquelles vous avez de la chance ou vous en avez pas. Dit autrement, si vous êtes dans un pays dans lequel il y a plein de forêts par habitant et plein de montagnes par habitant, j'ai nommé la Suède, alors là vous pouvez y penser. Donc 9 millions d'habitants sur les deux tiers de la surface française, 70% de forêts et des barrages à gogo, la Suède peut rêver d'un monde quasi industriel avec des énergies renouvelables. Elle peut en rêver. Nous, c'est pas possible. La Belgique, encore moins. Non, mais ils sont un peu plus densément peuplés que nous. Et les Pays-Bas non plus. Donc l'Europe dans son ensemble non plus. Donc il faut plein de montagnes ou plein de forêts pour avoir des énergies renouvelables. C'est une affaire d'espace, essentiellement. Absolument. En France, je vais jusqu'à dire qu'il faut tout de suite arrêter les éoliennes et les panneaux solaires qu'on n'aurait jamais dû démarrer. Les énergies renouvelables dont il faut... Mais on aurait aussi dû ne pas faire ITER, parce que la fusion est un truc que vous serez mort, que ça n'aura toujours pas démarré à une échelle industrielle. Donc c'est... Moi, vous savez, alors j'aurais quand même dû donner l'échelle de temps. Pour se limiter aux 2 degrés, s'il faut quand même que je vous dise ça, pour se limiter aux 2 degrés de réchauffement, est-ce que vous savez par combien il faut diviser les émissions planétaires d'ici à ce que vous ayez même pas mon âge ? D'ici à 2050. Par 3. Par 5, ça serait mieux. C'est plutôt 1,5 degré par 3. Donc il faut les diviser par 3 en 30 ans. Alors maintenant, je vais vous donner un autre chiffre. Il n'y a pas de futur banquier, j'espère, dans cette salle. Mais si vous étiez futur banquier, une division Excel sait faire ça pour vous, quand l'ordinateur marche. Une division par 3 en 30 ans, c'est moins 4,5% par an. Il y a 2 années au XXe siècle, 2, pas 3, 2, où les émissions de CO2 ont baissé de plus de 4% dans l'année. Est-ce que vous pouvez les deviner ? Pas 1980, pas du tout. Non. Je crois que j'ai entendu la bonne réponse dans le brouhaha. Pas 70. Alors, 29, on sent 45, bien. L'année de l'éradication industrielle de l'Allemagne et du Japon. Voilà, ça a fait moins 4% dans l'année. L'autre année où on a eu ça, c'est le paroxysme de la crise de 29. En l'occurrence, c'était en 32. Donc, il faudrait faire ça tous les ans, à partir de maintenant. Tous les ans, à partir de maintenant, pour tenir les 2 degrés. On fait pas ça tous les ans à partir de maintenant, l'Antarctique se désagrège. Choisis ton camp, camarade, comme disait l'autre. Oui, c'est ça le deal. Donc je comprends la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que le manifeste va, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, ça peut pas faire de mal. Est-ce qu'en France, dans ce genre de contexte, avec ce que je crois être le danger du réchauffement climatique et du sevrage non anticipé des énergies fossiles, c'est-à-dire en gros la guerre partout. Est-ce que dans cette affaire-là, remplacer du nucléaire par des éoliennes me paraît être le premier endroit où on doit mettre nos milliards ? À l'évidence, non. À l'évidence, non. Pour vous donner 2 ordres de grandeur. Est-ce que vous... Alors, au moment où je vous parle, en fait plus exactement à fin 2018... Le contribuable français, via l'État, s'est engagé à payer un peu plus de 100 milliards d'euros, 120, aux producteurs d'électricité éolienne et solaire pour les contrats qui ont été conclus avant décembre 2018. Donc dit autrement, tous les propriétaires d'installations qui, avant le 31 décembre 2018, avaient mis leur installation, avaient contractualisé avec l'État en disant « je vais faire ce truc-là où je l'ai déjà fait et je vends mon électricité à tarif d'achat garanti », la somme de tous ces gens-là va encaisser 120 milliards d'euros d'impôts. 120 milliards d'euros d'impôts. Ces impôts viennent historiquement de taxes sur l'électricité et maintenant de taxes sur les carburants. Donc les gilets jaunes sont très contents de payer des taxes pour construire des éoliennes qui vont vachement les aider à se déplacer. Pour le moment, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais le jour où ils s'en rendront compte, je ne suis pas sûr qu'ils soient ravis. Avec le tiers de cette somme, je supprime la totalité des chaudières au fioul dans ce pays, la totalité, pour les remplacer par des pompes à chaleur. Dans le premier cas de figure, je n'ai pas baissé le CO2, parce que le nucléaire, comme les éoliennes, ça ne fait pas de CO2, enfin pas beaucoup. J'ai augmenté le risque nucléaire parce que je vais garder mes centrales, comme les Allemands ont gardé leurs centrales pour assurer la fourniture électrique quand il n'y a pas de vent, je vais garder les centrales françaises pour la fourniture électrique quand il n'y a pas de vent. Simplement, je vais moins m'en servir dans l'année, puisque quand il y a du vent, je ne m'en servirai pas. Donc elles vont gagner moins d'argent. Que pensez-vous qu'il advient de l'entretien de quelque chose qui a des coûts fixes et qui garde moins d'argent ? Je ne suis pas complètement sûr que ça va contribuer à améliorer la sûreté nucléaire. Je suis même assez persuadé de l'inverse. Donc on va dégrader la sûreté, ne rien faire sur le CO2 et détruire de l'emploi globalement, parce que quand vous faites un mégawattheure nucléaire dans ce pays, vous importez 1 euro d'uranium. Quand vous faites un mégawattheure solaire, comme ce n'est pas nous qui fabriquons les nacelles, ni nous qui fabriquons les panneaux solaires, les 10 premiers fabricants de panneaux aujourd'hui sont chinois. Et les fabricants d'éoliennes sont chinois aussi. C'est-à-dire que même quand vous achetez une éolienne Vestas ou Siemens, maintenant la nacelle est faite en Chine. L'usine est faite en Chine. Donc vous augmentez les importations. Donc vous augmentez le risque nucléaire, vous augmentez les importations et vous ne gagnez rien en CO2. Donc comme truc de Shadok, on ne fait pas mieux, quoi. Donc évidemment que c'est le premier truc que j'arrêterai. Donc je m'occuperai des chaudières à fioul, des chaudières à gaz, de diminuer la taille des voitures et de convertir tous les agriculteurs à l'agriculture douce dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je suis sûr qu'avec 100 milliards, je fais quelques petits trucs dans ce pays. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent que le gouffre à milliards qui a juste été la sucette électorale que Hollande a vendu au vert. Donc il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. En l'occurrence, son droit d'aînesse, c'était l'Elysée, enfin l'inverse. Et le plat de lentilles, c'était « je vais taper sur le nucléaire en construisant des éoliennes ». Mais c'est un truc, quand vous regardez objectivement, c'est un truc qui n'a strictement aucun intérêt sur rien. Voilà. Quelque part, c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas compris qu'il y avait un problème urgent. La meilleure preuve. Il y avait une main levée là depuis longtemps, il y en a une aussi là-bas, et puis je crois qu'il y en a une là-bas aussi qui...
Du coup, vous avez soulevé un problème qui n'avait pas été soulevé, donc j'en profite. Vous avez dit qu'il y avait un problème d'approvisionnement, et que c'était un problème clé. Pourquoi est-ce que le prix n'arrive pas à réguler ce problème d'approvisionnement ?
Parce que dans les autres choses... Alors, vous avez appris un premier truc qui ne sert à rien en économie, qui s'appelle l'utilité. Et il ne sert à rien parce qu'il n'est confrontable à aucune expérience. Il n'y a pas d'expérience où on mesure des utiles. Voilà, bon. Eh bien, il y a un deuxième truc que vous avez pris en économie qui est faux, qui est qu'il y a une élasticité prix-volume qui est persistante. Alors, en fait, il n'y a pas d'élasticité prix-volume persistante sur l'énergie. Il y a une élasticité prix-volume instantanée, mais elle n'est pas persistante. Dans les graphiques que je ne vous ai pas montrés, mais vous pouvez le retrouver sur mon site perso, j'ai un article que j'ai publié dans les Échos il y a quelques années, que j'ai reproduit sur mon site perso, qui s'appelle « Le pétrole est-il élastique ?». Et alors, en fait, je parlais évidemment du prix du pétrole. Et à la suite, j'ai mis des graphiques. Et un graphique que j'ai fait dans lequel je regarde comment varie le prix du pétrole en fonction de la quantité qu'on peut acheter dans l'année, qui est en fait la quantité produite dans l'année. Et il n'y a strictement aucune relation univoque entre les deux. Zéro. Ça ressemble à un plat de nouilles. Bon. Ce qui veut dire, alors pourquoi c'est comme ça ? Parce que le pétrole est une denrée essentielle au fonctionnement de l'économie. En fait, aujourd'hui, le pétrole, en volume, c'est le premier facteur limitant de l'économie. Le premier. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Plus de pétrole, plus d'économie, moins de pétrole, moins d'économie, c'est exactement comme ça que ça marche, que la Fed fasse ce qu'elle veut et que Macron fasse ce qu'il veut sur les charges sociales, c'est juste comme ça que ça marche. Quand vous avez moins de pétrole, instantanément, vous allez avoir une hausse de prix. Donc la hausse de prix existe, l'élasticité existe à court terme. Mais si vous avez moins de pétrole, vous avez donc une économie qui peut vous offrir moins de transport. Donc l'économie produit moins, donc le PIB descend. Si le PIB descend, comme le PIB c'est la somme des revenus, les revenus de vos consommateurs descendent. Donc l'offre de pétrole est descendue, mais les revenus de vos consommateurs sont descendus aussi, et à ce moment vous avez un nouveau prix d'équilibre qui n'a aucune raison d'être au-dessus du prix que vous avez eu au moment du choc, et en fait il est en dessous. Par ailleurs, comme le pétrole est un facteur limitant, alors quand vous avez un choc, le prix du pétrole monte. Du coup, les producteurs de pétrole sont incités à aller en chercher qui n'étaient pas rentables avant. Donc l'offre va un peu augmenter. Les consommateurs vont faire un peu gaffe, d'abord parce que c'est la récession et ensuite parce que le prix du pétrole est monté. Donc ils vont en consommer un peu moins. Du coup, pas longtemps après, vous allez vous retrouver avec une offre un peu en surplus. À ce moment, le prix se casse la gueule. D'autant plus que le pouvoir d'achat de votre consommateur avait un peu diminué. À ce moment, les producteurs de pétrole se disent « puisque le prix est bas, je ne vais pas aller en chercher du en plus parce que ce n'est pas rentable ». Donc, ils coupent dans leurs investissements. Mais comme le prix est descendu, le consommateur se dit « quand même, je vais en reconsommer un peu plus ». Le prix a descendu et avec l'effet du prix élevé précédent, l'offre a été un peu mieux approvisionnée. Donc il en consomme un peu plus alors que les investissements diminuent. À ce moment, la production repart à la baisse, la demande repart à la hausse et boum, vous recommencez le cycle. Donc en fait, vous allez avoir le prix du pétrole. La seule chose que vous êtes capable de théoriser sur un approvisionnement contraint, c'est qu'il sera oscillant. Et en fait, ce qui va vous donner la dureté de la contrainte, c'est à mon avis deux éléments. Un dont je suis sûr, un qui est une hypothèse, mais l'avenir le dira. Ce dont je suis sûr, c'est que ce qui vous donne la contrainte sur la disponibilité du pétrole, c'est non pas le prix de marché du pétrole, c'est la quantité d'investissement qu'il faut mettre sur la table pour extraire un baril jour supplémentaire. Et il se trouve que le premier à m'avoir dit ça aussi simplement, c'est l'auteur de The Limits to Growth, puisque j'ai eu l'immense honneur dans ma vie de rencontrer Monsieur Dennis Meadows. Et il m'avait dit exactement ça. Il m'avait dit la rareté des ressources naturelles ne se verra pas à travers leur prix de marché. Elle se verra à travers le fait qu'il faudra mettre de plus en plus d'investissements pour extraire une unité supplémentaire de ressources. Et quand vous regardez le pétrole, c'est très exactement ce qui se passe. Le pétrole de schiste demande beaucoup plus d'investissements par baril extrait. Les sables bitumineux demandent beaucoup plus d'investissements par baril extrait. L'offshore profond demande beaucoup plus d'investissements par baril extrait que les grands gisements conventionnels à terre sur lesquels les drones de je ne sais pas qui sont allés se faire la main il n'y a pas longtemps. Où le prix d'extraction reste ridicule. Le prix d'extraction dans ces gisements, c'est 5 dollars le baril. C'est 0,3 centimes le kilowattheure. Vous voyez, 0,3 centimes le kilowattheure de pétrole avec la fonction de stock déjà incluse. Le prix du kilowattheure éolien, dans les bons cas de figure, c'est 4 à 5 centimes sans la fonction de stock. Avec la fonction de stock, vous montez à 15 à 20. Donc vous avez un rapport de 1 à 100 quasiment entre le pétrole qui attend sous nos pieds gentiment qu'on vienne le chercher et l'éolienne qu'il faut construire, en plus avec du pétrole déjà, sans pétrole ça serait encore plus cher, qui nous sort l'énergie du vent, c'est-à-dire 1 kg par mètre cube, quoi. C'est pas beaucoup. Tout ça pour dire que le prix n'est pas le marqueur. Le marqueur, c'est le capex par unité extraite. Et le deuxième marqueur, à mon avis, ça sera la volatilité du prix. Quand on était avant les premiers chocs pétroliers, c'est-à-dire avec une offre pléthorique, le prix a été cartélisé par les producteurs, il est resté stable pendant un siècle quasiment. Après, en dollars constants, hein, il est resté stable. Arrivent les chocs pétroliers, qui est le début d'une modification de la dérivée sur l'offre de pétrole. Le pétrole croissait de 8 à 9% par an. Il ne croît plus que de 1% par an après. Un gros changement de dérivée. À ce moment-là, le prix commence à osciller. Alors il oscille avec une grande longueur d'onde, 10-15 ans. Premier choc en 1974-79, ça redescend. Deuxième choc dans les années 90, ça redescend. Troisième choc dans les années 2000, ça redescend. Ça remonte plus vite. 2008, 2009, ça se casse la gueule. 2010, ça remonte jusqu'en 2014. 2015, ça se casse la gueule. Puis là, ça a recommencé à remonter. Puis ça, voilà. Donc la longueur d'onde va se raccourcir. C'est ça mon marqueur pour moi. Mais alors ça, c'est une hypothèse que je pose. J'en ai pas la démonstration formelle. Mais j'ai envie de dire que le truc qui attire ma vigilance, à moi, qui capte ma vigilance, c'est de regarder la longueur d'onde de l'oscillation. Et plus elle se raccourcit, plus ça veut dire qu'on commence à avoir une contrainte sérieuse sur la disponibilité. Il y avait là, je crois. Puis après, il y avait des malheureux de l'autre côté. Là.
Bonjour. Je voulais vous demander ce que vous pensiez. Alors moi je viens du Nord où on nous vend troisième révolution industrielle. En ce moment avec les plans climat, on en vend biométhanisation partout où c'est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et surtout quand vous me dites que il y a que la Suède qui peut rêver d'un monde industriel, est-ce que nous on peut pas juste rêver d'un monde paysan avec plein de sciences, avec de l'agroécologie, etc.
Je pense qu'il va. Alors la réponse à la deuxième question est facile. Je pense qu'il va falloir
garder l'élevage.
Pardon ?
La méthanisation qui est faite...
La réponse à la deuxième question, c'est est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un monde
paysan,
etc. Je dis, il va falloir. Okay. Donc, c'est pas tellement est-ce qu'on peut, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là. Avant de répondre à votre question, mais vous avez compris que je suis un peu touffu, je vais faire une incidente. Dans la recherche aujourd'hui, dans le monde économique, les sujets qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire que les chercheurs du monde économique payés avec mes impôts, il n'y a qu'un seul truc qu'ils sont en train de regarder, à quelques exceptions près, ça commence à changer un peu, c'est comment je fais revenir la croissance. Puisque la croissance est la baguette magique qui règle tous les problèmes. Il n'existe pas aujourd'hui dans le monde économique de gens qui se penchent sur le vrai problème qui est le nôtre, c'est-à-dire comment est-ce que je rêve dans un monde contraint. Dit autrement, comment est-ce que j'optimise au mieux ce que j'aurai? Où est-ce que les gens vont se sentir le mieux? Qu'est-ce qui est le moins, qu'est-ce qui est le perçu comme étant le moins inéquitable? Est-ce que dans ce monde-là, je dois enlever 40% au salaire de sortie des agros pour conserver le salaire des smicards, tout en leur disant c'est toujours bien payé, puis vous allez faire un truc qui sera rigolo, donc c'est pas si mal que ça. Est-ce que c'est ça que je sais pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, ce débat-là n'existe pas du tout. Donc moi, un truc que je commence à dire partout, c'est j'aimerais bien qu'avec l'argent de mes impôts, il y ait au moins 5 à 10% des économistes qui commencent à réfléchir à ça. D'accord ? Donc c'est une digression sur la réponse à votre deuxième question. Alors, un monde totalement paysan, non. Il restera de l'industrie, de l'artisanat, de la réparation, etc. Bon, et puis il y a quand même des acquis. Il y a une connaissance du monde qui nous entoure qu'on n'oubliera pas. C'est-à-dire le monde paysan de l'an 1000, on ne savait pas que la Terre était ronde. Le fait de le savoir, peut-être que quand même c'est un peu mieux. Enfin, toutes les avancées scientifiques, il y en a quand même une partie qu'on peut conserver pour les exploiter à notre profit.
Juste, vous n'avez pas du tout parlé du labour biologique, parce qu'on a parlé beaucoup d'énergie.
Oui.
Aujourd'hui, avec y a les bourguignons qui parlent de tout ça, on arrive à faire plus de production en comprenant le sol, en fait, en travaillant.
Oui, avec non, mais c'est évident que c'est des choses qu'il faut faire. Donc je le redis, c'est un exercice d'optimisation sous contrainte dans lequel vous renversez le raisonnement. C'est-à-dire, au lieu de vous dire la contrainte, je la lève par la technologie. Du toujours plus. Là, vous postulez que vous n'aurez pas le toujours plus et vous regardez où est-ce que la technologie, c'est-à-dire l'application de la science, vous permet de faire mieux avec ce que vous avez en fonction des contreparties que vous êtes prêts à accepter. C'est un exercice qui demande beaucoup d'agilité intellectuelle. Donc, sur le plan strictement de la réflexion, c'est plutôt stimulant. Après, je vais vous placer mon grand couplet sur les ingénieurs français. Parce que je pense qu'on a intérêt, nous, à enfourcher ce cheval de bataille les premiers. Alors, je vais vous placer tout de suite. En fait, les ingénieurs français sont les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. D'accord ? On sait pas tout faire dans le monde. On sait faire des sacs, on sait faire du champagne, etc. Mais on sait faire de l'optimisation sous contrainte. On est très, très bon à ce jeu-là. Donc, de se dire, il y a une énorme contrainte, faut qu'on s'implique dedans, c'est au-delà du fait d'être utile pour nous-mêmes, utile pour le service qu'on peut rendre aux autres. Et donc, et être utile dans le monde de demain aura toujours une valeur d'échange. D'accord ? Donc, je pense qu'on a vraiment intérêt à foncer dessus. Au moins autant par égoïsme bien pensé que par empathie, si on en a. La deuxième question...
C'était industrielle, troisième révolution industrielle et méthanisation...
Ah, monsieur Rifkin. Bon, alors, j'écouterai monsieur Rifkin le jour où il fera une règle de trois. Alors sinon, qu'est-ce que je pense de la méthanisation ? C'est pas nécessairement un truc idiot. Je ne pense pas que ça. C'est évidemment un truc qui n'aura jamais le potentiel de remplacer le gaz qu'on utilise aujourd'hui. Pas une seconde. L'essentiel du gaz qu'on utilise aujourd'hui est dans le chauffage, soit dit en passant. Et supprimer le gaz dans le chauffage, c'est très simple. Je remplace le chauffage par de l'isolation. Contre le chaud et contre le froid, parce que vous avez peut-être constaté l'été dernier que peut-être qu'une partie des appartements parisiens vont devenir invivables pour des raisons de chaleur avant de devenir invivables pour des raisons de froid. Je ne sais pas, qui a mal dormi l'été dernier ? Il y a quand même quelques-uns, hein ? Et vous faisiez partie des chanceux qui étaient partis en vacances. Ou en stage. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc on va pas faire les 500 TWh de gaz qu'on consomme aujourd'hui en France, pas une seconde, mais il y a 60% de ce gaz qui est consommé dans le chauffage. Celui-là, je peux m'en débarrasser avec de l'isolation et des pompes à chaleur. Et un peu de bois. Exit. Le reste, il y en a une partie qui va dans l'industrie et une partie qui va dans l'électricité, une petite partie. Mon sentiment, c'est que ça ne sert strictement à rien de faire de la méthanisation pour faire de l'électricité. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup mieux que ça. Ça ne sert... Vous pouvez facilement substituer le gaz dans l'usage cuisson et le chauffage de l'eau, toujours avec de l'électricité. Là où ça commence à devenir vraiment intéressant, à mon avis, c'est dans deux usages. C'est comme matière première pour faire de la chimie. Ça, c'est pas inintéressant. Et le deuxième usage qui me paraît être particulièrement pertinent, c'est que tant que vous n'aurez pas fait revenir 2 millions de personnes dans l'agriculture, c'est pour la mécanisation agricole. Donc à mon avis, le premier truc qui est intéressant avec la méthanisation, c'est de faire avancer les tracteurs tant qu'on n'a pas convaincu les gens de démembrer au lieu de remembrer, de revenir à la traction animale avec les animaux qui font caca dans les champs et d'avoir un peu d'aide mécanique quand même par-dessus tout ça qui, elle, peut être amenée par des engins qui fonctionnent avec du biogaz. Voilà. Donc le premier poste d'utilisation de la méthanisation, pour moi, c'est que l'agriculture se serve elle-même. D'accord ? Le reste, on verra après. Et dans les transports, c'est évident que ça sera un déterminant totalement marginal. Donc aujourd'hui, tous les gens qui vous disent on va faire le segment terminal de la livraison avec que des camions qui fonctionnent au biogaz grâce à la méthanisation, donc vous ferez quelques réseaux de bus, ça je veux bien. C'est aussi très intéressant avec les ordures ménagères. Donc tant que vous avez des gens qui habitent en ville et qui jettent leur pelure de patates en ville et pas de nouveau dans les champs ou pour nourrir les cochons, ce qui est en fait la meilleure utilisation qui soit, ou nourrir les poules, hein, c'est de loin la meilleure utilisation, eh bien tant qu'on n'en est pas là, méthaniser les déchets urbains, ça c'est aussi quelque chose pour faire avancer les bus, c'est ce que fait Lille, donc ça devrait vous plaire, c'est une très bonne idée, ça pour le coup c'est une très bonne idée.
Oui, je voulais dire, quand on entend aujourd'hui les politiques parler, on se rend compte qu'on est encore bien loin des enjeux un peu qui nous attendent. On va interdire les pailles pour l'année prochaine, bon, bah, c'est très bien, mais à côté de ce qui nous attend, on se demande si c'est pas un peu dérisoire. Et quand on vous écoute parler, vous évoquez le fait que la démocratie, la mondialisation, bah, ce sera pas du tout le monde de demain. Et ce que je me demandais, du coup, c'est comment on fait pour faire bouger ce système qui est pas du tout adapté au monde de demain. Est-ce qu'on fait à plus une méthode que je dirais douce avec des pétitions, des marches dans la rue qui au final entretiennent aussi ce système puisqu'elles sont dans ses cordes, ou est-ce qu'on fait une méthode plus forte où c'est de la désobéissance civile, des printemps arabes qui sont complètement contre le système mais qui au final sont plus axés sur le système de demain?
Je vais commencer par vous faire un petit retour d'expérience sur ma fréquentation qui maintenant n'est pas loin d'être de 20 ans du pouvoir politique. Il y a quelques petits éléments qu'il faut savoir. Le premier, c'est qu'une fois que vous êtes en fonction, aux plus hautes fonctions, vous n'avez plus le temps d'apprendre. Ce qui est un drame, mais c'est comme ça. Pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler de Michel Rocard, qui était un type que j'ai rencontré une fois dans ma vie, mais qui m'a beaucoup impressionné, il avait écrit dans ses mémoires « Premier ministre, c'est un job dans lequel vous avez besoin de prendre toutes les deux minutes une décision sur un dossier que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Bon. » C'est encore vrai aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc vous jonglez de la 5G à la PAC en passant par la PMA et je ne sais pas quoi, enfin, truc, vous avez la cervelle qui explose. Donc ils n'ont pas le temps d'apprendre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la formation qu'ils ont suivie avant leur entrée en fonction n'inclut pas la compréhension de ce problème à traiter. Donc ils en entendent parler, c'est pas pour autant qu'ils le comprennent. Si je prends un parallèle, qui dans cette salle a entendu parler d'Internet ? Ou les autres sont timides ou ils sont sourds, mais bon, vous avez tous entendu parler d'Internet. Qui dans cette salle est capable de me décrire techniquement par le menu le fonctionnement d'Internet ? Personne. On est bien d'accord ? Bon. Eh bien, c'est exactement là où je voulais en venir. Beaucoup entendre parler d'un problème, ça ne veut pas dire bien comprendre le problème. D'accord ? Il y a une énorme différence. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas la capacité à faire la pédagogie du problème, puisqu'ils n'ont pas en eux-mêmes le bagage technique pour le comprendre, ils en sont réduits à faire ce que fait tout politique quand il ne comprend pas le problème à traiter, c'est arbitrer des pressions. Dit autrement, ils vont dire oui à la personne du moment qui exerce la plus forte pression, c'est-à-dire le corps constitué ou la fraction de l'électorat ou l'entité qui fait que de lui dire oui amène le plus grand bénéfice, soit en termes d'emmerdement évité à court terme, soit en termes de voix à long terme. C'est exactement pour ça que Hollande a dit oui au vert sur le nucléaire. Je pense que Hollande ne sait pas vous décrire ce que c'est qu'une fission nucléaire. Je pense qu'il ne connaît pas le numéro atomique de l'uranium, qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'on trouve dans les déchets de fission et qu'il n'a pas la moindre idée de l'énergie libérée par une fission. Je pense que tout ça, il ne le sait absolument pas et qu'il s'en contrefou, soit dit en passant. Mais par contre, il a compris que de dire au vert qu'il était contre le nucléaire, ça allait lui ramener 3% des voix, et comme il a été élu avec 51,5, il a eu bien raison. Non. C'est exactement à ce jeu-là qu'il a joué. Ce qui veut dire que faire pression sur les politiques, Et pour avoir côtoyé longtemps Hulot, Hulot avait un pouvoir de nuisance qui consistait à dire « retenez-moi ou je fais un malheur ». Alors « je fais un malheur », ça peut prendre deux voix. C'est « je me présente aux élections et je vous bouffe 10% des voix ». Faites pas ça. Bon. Deuxième truc qu'il pouvait faire, c'est dire « je dis, je vous pourris dans la presse, je dis partout du mal de vous », etc. Alors en fait, la deuxième voix, il l'a jamais utilisée parce que c'est pas un belliqueux. Mais par contre, la première, il l'a vraiment utilisée au moment du pacte écologique. Je me rappelle très bien parce que j'étais un des co-rédacteurs. Il a vraiment dit, et c'était un coup de génie, hein. Je songe à me présenter. Je peux vous dire que le lendemain, Bérou signait le pacte, le surlendemain, Ségolène Royal signait le pacte. Enfin, d'abord le premier qui avait le plus à perdre a signé, ensuite la deuxième qui ne pouvait pas faire sans a signé, et ensuite Sarkozy a été contraint de signer. Et il en a terriblement voulu à Hulot derrière de l'avoir fait plier, parce que Sarkozy était un mec qui n'aimait pas trop qu'on le fasse plier, quoi. Donc dans le monde politique, vous n'existez que si vous avez un pouvoir de nuisance. Et alors, c'est pas du tout de la jalousie ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, hein. Mais moi, j'ai jamais réussi à rencontrer Macron, alors qu'au Shift, ça fait 10 ans qu'on réfléchit à quoi pourraient ressembler des grands éléments de stratégie qui seraient à la fois bénéfiques pour le pays, qui ramèneraient de l'espoir et qui permettraient de se coltiner cette contrainte. Greta Thunberg fait descendre les jeunes dans la rue, elle est reçue. Donc je le redis, c'est pas du tout de la jalousie, c'est juste très emblématique du fait que c'est pas le discours rationnel qui atteint ces gens-là. Ce qui atteint ces gens-là, c'est le fait, c'est la capacité de pression. Bon. Comment est-ce que vous existez pour faire pression sur ces gens-là ? Eh bien, il n'y a que deux manières. Ou bien vous ralliez une entité qui fait déjà pression sur eux. Donc vous trouvez que ce que raconte Greenpeace est génial, vous adhérez à Greenpeace. Bon. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'offre du moment qui milite pour qu'on s'occupe sérieusement du problème, ou vous pensez que cette offre n'a pas le pouvoir de pénétration suffisant, parce qu'il peut y avoir les deux, hein. Au Shift, on a la prétention de penser qu'on essaye de porter une offre qui est en adéquation avec le problème à traiter, mais aujourd'hui on a un pouvoir de pénétration qui est faible. Donc vous pouvez très bien vous dire, ils sont très sympas mais je perds mon temps si je vais chez eux, parce que d'accord. À ce moment vous êtes un peu désarmé, c'est-à-dire que s'il n'y a ni offre militante du moment qui correspond à ce qui vous intéresse, ni vous n'avez en vous-même une capacité de nuisance, et ben vous oubliez le pouvoir politique à court terme. Voilà, c'est malheureusement comme ça que ça marche. Il faut bien voir que pendant que le micro passe, il n'y a pas que dans l'action politique qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et en particulier, je pense que, en général, s'engager dans l'action politique, c'est quelque chose, ou s'engager dans le militantisme envers les politiques, c'est quelque chose que vous faites parce que vous pensez que ça a du sens. Mais vous pouvez très bien avoir d'autres actions qui ont du sens. J'en reviens au manifeste de tout à l'heure, c'est une action qui a du sens. Mais je vous assure, c'est une action qui a du sens. Le fait de démarrer des initiatives locales, justement, qu'avec le métier que vous avez, vous alliez aider à faire émerger ici et là des fermes, des machins, des trucs et des bidules, de la reconversion d'urbains qui ont envie... Il y a un certain nombre d'urbains qui aujourd'hui ont envie de se reconvertir pour démarrer une activité agricole, qui souvent, soit dit en passant, n'est pas faite exactement comme les activités qu'ils remplacent. Ils essayent d'amener de l'innovation. C'est intéressant ce qu'ils font. Vous pouvez très bien les aider. Donc vous pouvez trouver du sens ailleurs que dans le militantisme vis-à-vis du politique, même si je suis d'accord avec vous que c'est toujours très irritant de voir des gens dont on se dit mais qu'est-ce qu'ils attendent pour comprendre, et c'est particulièrement désagréable une fois que soi-même on a compris.
Bonsoir, vous avez fait une très bonne transition avec ma question. Étant donné que le PIB est directement lié à la consommation d'énergie, on va avoir une chute du PIB, enfin en tout cas on peut le souhaiter, mais il se trouve qu'une chute du PIB dans la structure actuelle de notre économie, ça amènerait directement à de la destruction d'emplois. Donc comment faire pour que la descente énergétique soit socialement acceptable ?
Eh bien, vous avez la réponse. Il faut organiser la diminution du pouvoir d'achat. Et cette organisation n'est acceptable qu'à partir du moment où en face, vous arrivez aussi à faire baisser les charges. Alors la première charge aujourd'hui, c'est celle du logement. On va retomber sur ce que je disais tout à l'heure. Comme de toute façon, pour des raisons énergétiques, il faut faire dégonfler les grandes villes. Ça tombe bien. Si je vous enlève 30% à votre salaire, mais que vous allez dans un endroit où se loger coûte 30% moins cher, que par ailleurs vous faites pousser une partie de votre bouffe, bon, bah vous achèterez moins de fringues et moins de smartphones. Je ne sais pas si c'est très grave. Ce dont je suis intimement persuadé, c'est que le seul contexte dans lequel ce genre de choses est négociable, c'est si en face je vous amène de l'espoir. Dit autrement, je vous dégage le brouillard devant en vous disant quand même tu vas devant, là ça monte un peu, on va transpirer un peu. Mais je dégage l'horizon et on est sûr qu'on ne va pas tomber dans une crevasse. Je pense qu'il faut absolument tenir ce genre de discours, mais on en revient à ce que je viens de dire juste avant. Il faut être capable de faire la pédagogie du problème si on veut être capable de vendre l'effort face au problème. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que dans la population française, une partie des gens ont confusément compris. Ils n'ont pas explicitement compris, ils continuent à tout confondre, ils ont quand même confusément compris que demain, ça n'allait pas être la répétition d'hier et qu'il allait y avoir des trucs bizarres. Non. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on n'est pas très loin de pouvoir commencer à accompagner ce mouvement. Déjà en expliquant, moi je sais que je ne me suis jamais fait sortir d'un endroit où j'expliquais les choses, y compris à des syndicalistes CGT. Quand on explique les choses et qu'on explique pourquoi effectivement il y a des difficultés devant nous qui ne sont pas liées à la mauvaise volonté de tel ou tel, mais qui sont juste liées à la façon dont le système s'est construit, en général les gens sont d'accord, enfin ont envie de discuter. Ils commencent à avoir envie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors un truc qui revient systématiquement, c'est clair que c'est dans une privation générale, le mode de vie de Bernard Arnault est encore plus intolérable. Et ça, c'est vrai. Et c'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs manières de faire baisser la richesse de Bernard Arnault. Il y en a plein. On peut nationaliser sa boîte. Enfin, bon, plein de manières. Bon. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur les économistes qui ne réfléchissent pas dans le bon contexte. Il faut probablement réfléchir à des trucs comme ça. De même que tous les gens qui ont des pavillons de banlieue qui ne vaudront plus rien dans un monde à l'énergie contrainte, parce que c'est quoi une banlieue ? C'est la zone où vous allez mettre des gens qui sont indispensables à une activité de type urbain. C'est pas des agriculteurs que vous mettez dans des pavillons de banlieue, c'est des employés de bureau. Hein. Donc vous mettez des gens qui font partie du système énergivore et qui, le jour où le système énergivore n'est plus là, font partie d'une agglomération qui n'a plus les moyens de trouver sa subsistance à l'extérieur et d'une agglomération qui est quand même trop dense, une banlieue, pour trouver sa subsistance en elle-même. Parce que c'est pas avec un jardin ouvrier de 50 mètres carrés que vous allez faire bouffer toute la famille toute l'année. Bon. Donc le pavillon de banlieue dans un monde en contraction énergétique, ma théorie, c'est qu'un jour il vaudra plus rien. Peut-être qu'il faudrait anticiper le truc en créant un fonds d'indemnisation pour propriétaires de pavillons de banlieue. Il y a tout à inventer dans ce monde-là, puisque c'est un monde qu'on n'a jamais connu.
C'est une nouvelle planification qu'il nous faut.
Bien sûr qu'il faut une planification.
Pas avec les plans quinquennaux, mais c'est quoi l'horizon de temps qui
50 est... à 100 ans. Okay. Bien sûr qu'il nous faut une planification. Alors là, je redis un truc que j'ai dit tout à l'heure. Les Français sont les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. C'est aussi le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. La France est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. On est un pays foncièrement égalitaire. Foncièrement égalitaire. Je veux dire, les gens, ça débecte mon voisin que je gagne 10% de plus que lui. Enfin, je veux dire, on est un pays foncièrement égalitaire. Alors, ça peut avoir des côtés horripilants, mais ça a aussi un énorme avantage face à la contrainte que je viens de décrire, parce que justement, on est un pays accessible à l'idée de collectif. On est un pays dans lequel la part des prélèvements obligatoires est très élevée, pas pour autant qu'on s'en porte plus mal, soit dit en passant. Moi, j'ai fait des petits calculs. Quand la dépense de santé et de retraite, parce que c'est essentiellement ça qui échappe aux prélèvements obligatoires dans les autres pays, passe directement dans le privé, les gens ne sont pas nécessairement en meilleure santé et ils n'ont pas nécessairement une retraite plus sympa. Donc l'idée qu'avec moins de prélèvements obligatoires, on se porte mieux, c'est de la foutaise de gens qui n'ont pas réfléchi plus loin que le bout de leur nez. Mais donc dans ce monde-là, on va avoir besoin d'un effort collectif extrêmement développé. Je le redis, on a une chance en France, c'est qu'on est accessible à ça, beaucoup plus que les Américains qui sont perdus pour la cause pour l'éternité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait l'ambition d'imposer notre façon de voir le monde aux Américains et pas l'inverse. Mais vraiment, hein, je suis sérieux quand je dis ça. J'ai mis 20 ans à me faire à cette idée, mais je le pense. J'ai vécu aux États-Unis quand j'étais étudiant, donc je viens de très loin. Mais je le pense vraiment, ce que je viens de dire. Et il va donc falloir inventer une planification. Il va donc falloir inventer la façon de dégonfler le système, et on va avoir un débat très douloureux sur la question démographique. Parce que, alors là, je vais peut-être en choquer quelques-unes et quelques-uns dans cette salle, je pense que le débat du moment sur la PMA est surréaliste. Parce que dans un monde peuplé de 8 milliards d'habitants, se demander comment je peux rajouter des êtres humains sur Terre me semble pas être la première priorité. Mais vraiment, je pense qu'on se prépare juste à faire des gens qui sont malheureux. Donc, aujourd'hui, c'est l'exact inverse qu'il faut faire. Et je vais reprendre le propos d'un père jésuite que j'adore, qui s'appelle Gaël Giraud, qui a une vidéo. Faut mesurer ce que ça veut dire chez un jésuite, ce qu'il a dit, hein. Enfin, chez un catho. Hein. Il y a une vidéo de lui qui tourne sur Internet, donc vous pourrez aller vérifier, dans lequel il dit l'aide au développement en France, et il était chef économiste de l'Agence française de développement quand il a dit ça. On peut vous dire que vraiment. Gaël a dit les trois priorités que devrait avoir l'aide au développement aujourd'hui, les trois uniques priorités devraient être l'éducation des femmes, le planning familial et les systèmes de retraite, c'est-à-dire tout ce qui permet de contenir la démographie de façon, j'ai envie de dire, raisonnablement douce. D'accord ? Il faut se concentrer sur ces trois trucs-là, et on oublie les ponts et les routes et les aéroports et les machins, tout ça, on fait une croix dessus. Bon. Alors, un peu de développement agricole, dans la mesure où c'est compatible avec une démographie qui se calme. Voilà. Sinon, le problème, il est juste... Bon, il se trouve que mon information de première main sur les soirées chez vous revient tout juste d'un stage à Madagascar, de terrain, où elle a compté les zébus. Le zébu, c'est le capital du paysan malgache. Eh bien, c'est très simple ce qui se passe là-bas. La population croit, vous n'êtes pas un homme si vous n'avez pas défriché votre parcelle, et donc les gens vont couper la forêt. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Bon. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de changer le schéma dans lequel la population croit indéfiniment. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, c'est un débat difficile. De même qu'en France, on va avoir un débat sur les allocations familiales, etc. C'est des débats difficiles, mais il faut les avoir, parce qu'à mon avis, ne pas les avoir, c'est pire. C'est la régulation involontaire du système. Et je rappelle aux agros qui sont dans cet amphi que les populations animales n'ont que deux modes de régulation naturelle, hein, c'est la famine et la maladie. Vous vous rappelez, hein, la famine et la maladie. Alors la guerre, c'est un accélérateur de la famine et de la maladie. C'est en général ça qui fait des gros dégâts dans une guerre, c'est que les gens n'ont plus à bouffer et qu'ils n'ont plus la possibilité de se soigner. Les morts directes dans le conflit, je vous rappelle que la Première Guerre mondiale a fait moins de morts que la grippe espagnole qui a suivi. Hein. Et dans les morts de la Seconde Guerre mondiale, vous avez énormément de morts chez les civils, qui sont des gens qui sont morts de faim et de maladie. Énormément, énormément. Donc, donc ne pas accepter de regarder en face ce problème-là, c'est signer pour le fait que la famine et la maladie et les guerres, à cause des tensions, règlent le problème à notre place. Je pense que c'est mieux d'avoir un débat sur les allocs. Quoi.
Bonsoir. J'avais une question. Vous avez parlé de dégonfler les grandes villes. Et pour autant, dans le rapport du GIEC de 2018, si je ne me trompe pas, une des mesures qui est présentée pour limiter l'artificialisation des sols, c'est justement au contraire de densifier les grandes villes et de construire en vertical pour loger un maximum de personnes sur un minimum de terres. Donc pour vous, à quoi ressemble la ville du futur ?
Alors je pense que la conclusion dont vous me faites part, que je ne connais pas, mais si elle existe, elle vient du groupe 3 du GIEC. Oui ? J'ai entendu oui. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a trois groupes dans le GIEC ? Non. Qui n'ont pas du tout la même valeur probante. Le groupe 1... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le GIEC ? Est-ce que tout le monde a entendu parler du GIEC ? D'accord. Attendez, vous dites oui. L'autre jour, je connais quelqu'un qui est allé faire une intervention à des jeunes de votre âge dans une école d'ingénieurs. Il y en a 80% qui ne savaient pas. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ? C'est pas une honte, hein ? Non ? Oui ? Non ? Bon. Je vais quand même vous le dire. Donc, le GIEC est une instance onusienne qui a pour mandat de rassembler la littérature scientifique disponible sur la question de l'influence de l'homme sur le climat et d'en faire une synthèse. Voilà. C'est ça, son job. Dans le GIEC, c'est décomposé en trois groupes. Le groupe 1 parle de la physique du climat et de la physique du changement climatique. Donc, là-dedans, vous avez essentiellement des physiciens, des chimistes. Le groupe 2 parle des conséquences possibles du changement climatique. Et là-dedans... Non, pardon, déjà dans le groupe 1, vous avez des biologistes parce que vous avez le cycle du carbone aussi. Dans le groupe 2, vous avez donc les mêmes que les précédents, plus des biologistes et des médecins. Tout ça reste à peu près sérieux. Dans le groupe 3, vous avez les économistes. Vous avez les économistes, exactement. Donc dans le groupe 3, vous avez des gens qui font tourner des modèles avec la croissance infinie et la façon de régler la taxe carbone dans un monde où malgré le changement climatique, il y a la croissance infinie. Voilà, c'est ça que vous avez dans le groupe 3. Je fais partie des gens qui pensent que le groupe 3 n'aurait jamais dû exister. Et en fait, il y a une partie des gens dans les groupes 1 et 2 qui pensent que le groupe 3 n'aurait jamais dû exister. La conclusion que vous avez lue vient probablement du groupe 3 et donc elle ne peut être tenue que par des gens qui ont un défaut de compréhension du système dans son ensemble. Donc à partir du moment où vous ne comprenez pas que c'est l'énergie qui a fait les grandes villes, vous pouvez vous dire, ah bah oui, quand même, quand on fait des villes qui sont très denses, du coup, les gens se déplacent à pied plutôt qu'en voiture. Ouais, c'est tout à fait vrai. Sauf que les grandes villes très denses n'existent que si vous avez beaucoup d'emplois de service, donc beaucoup d'énergie dans le pays, beaucoup de PIB. À ce moment-là, du reste, les gens des grandes villes denses ont beaucoup de pouvoir d'achat, et comme ils n'aiment pas vivre dans les cages à lapins, ils vont passer le week-end au Maroc. Je ne sais pas si vous avez vu le sketch de Groland, là, voilà, c'est exactement ça. Donc l'empreinte carbone globale des habitants des grandes villes denses est supérieure à l'empreinte carbone du banlieusard de la moyenne ville, qui lui ne bouge pas parce qu'il fait son barbecue chez lui le week-end. Et en plus, il a moins de pognon. Donc j'ai longtemps pensé ça aussi, qu'il fallait densifier les villes. Mais en fait, c'est parce que j'étais pas encore au bout de ma compréhension des effets système. Donc maintenant, je pense qu'il faut dégonfler les grandes villes. Et effectivement, les petites villes qu'il faut garder, il faut qu'elles soient denses. Quand vous regardez le Lutèce de la Gaule, Lutèce, je crois qu'il y avait 50 ou 100 000 personnes. Pourquoi est-ce qu'il y avait 50 ou 100 000 personnes? Parce qu'à l'époque, avec l'agriculture qu'on était capable d'avoir, eh bien, une ou deux journées de charrette à bras, là, pour en venir à ce que je disais, vous délimitez un disque agricole qui était capable de nourrir 50 à 100 000 personnes. Donc, point. Mais dans le Lutèce de l'ancien temps, les maisons étaient déjà serrées les unes contre les autres. Et quand vous allez au Coupe-Chou, pas très loin d'ici, sans faire de la publicité pour personne, alors c'est pas le Lutèce de l'ancien temps, mais c'est quand même le 11e siècle, eh bien, vous voyez bien que dans le vieux quartier latin, vous avez des maisons de 2, 3 étages, enfin des immeubles de 2, 3 étages, voilà, 3, 4. Est arrivé le baron Haussmann, il a plutôt fait 5, un peu plus. Mais donc, du R plus 5 ou du R plus 4 collés les uns à côté des autres, c'est l'optimum de densité pour une ville. D'accord ? Vous faites pas mieux. Quand vous commencez à faire des tours, les gens ont besoin d'espace et vous espacez les tours. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en densité à l'hectare, vous n'êtes pas mieux loti. Vous êtes moins bien loti dans la tour parce que vous avez besoin d'un ascenseur sans électricité, vous êtes coincé. Donc le jour où il n'y a plus d'électricité, la valeur du foncier à la défense, zéro. Zéro. Zéro, parce que le PDG de Total ne montera pas à pied au 50e étage de la tour, je vous assure. Enfin, il le fera peut-être une fois par mois, parce que ça, mais il ne fera pas ça tous les jours. Donc voilà un exemple. Le foncier à la défense dépend en totalité du fait qu'on ait de l'énergie. En totalité, sinon ça ne vaut plus rien. Voilà, donc les villes qui restent, il faut, donc la ville optimale, c'est Cahors, si vous voulez, 20 000 habitants, tout dans le mur d'enceinte, très dense, et vous faites un kilomètre et vous êtes dans votre jardin potager, vous faire pousser vos tomates. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut que toutes les villes fassent 20 000 habitants, mais c'est imagé ce que je voulais dire. Et le Paris du baron Haussmann doit faire 1,5 million d'habitants, et déjà à l'époque, vous avez les carrioles à cheval, les trains, etc., qui commencent à être capables d'acheminer des marchandises en grande quantité vers Paris. Hein. Donc ça vous donne une petite idée. Et une mégapole à 10 millions d'habitants, c'est juste pas vivable. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on est passé de la France agricole à la France d'aujourd'hui de 30 millions d'habitants à 65. Et qu'est-ce qu'on fait des 35 supplémentaires? Et ça renvoie au débat que je viens d'avoir juste avant. Je pense que je sais pas ce qu'on en fait, mais si on passe de 35 à 40, on s'en rend encore moins. Ça, c'est sûr. Je ne sais plus.
Bonjour. Il y a peut-être un moment où il y a un paradoxe dans ce que vous dites. C'est quand vous croyez fermement en la phrase qui dit que plus une ressource est rare, c'est pas ça. Enfin,
j'ai pas compris, pardon.
Il y a un paradoxe dans.
Oui, ça j'ai entendu, j'ai pas entendu la fin.
La phrase que vous avez évoquée à propos des ressources, plus une ressource est rare, c'est pas. Enfin,
plus le montant d'investissement qu'on met sur la table pour extraire une unité supplémentaire de la ressource monte.
C'est ça.
Oui.
Et si on considère l'énergie comme une ressource, alors on va pas chercher à contracter cette énergie, on va juste dépenser plus de moyens pour avoir la même énergie.
Alors, ok. Aujourd'hui, alors on va repartir des bases. Vous êtes d'accord avec moi que le vent est gratuit? Vous êtes d'accord avec moi que le soleil est gratuit? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que le pétrole est gratuit? Vous êtes d'accord? Le pétrole est gratuit. Qui n'est pas d'accord avec le fait que le pétrole est gratuit? Le pétrole est gratuit. Qui a payé quelque chose dans cette salle pour que le pétrole se forme? Personne. Donc le vent se forme gratuitement, l'eau tombe gratuitement des montagnes, et le pétrole, qui les montagnes sont gratuites aussi, du reste, elles se sont formées gratuitement, et le pétrole, la formation du pétrole est gratuite. Dans tous les cas de figure, ce qui coûte, c'est le travail humain et les revenus humains pour aller le chercher. Et ces revenus sont décomposés en deux morceaux, la rémunération du travail, donc les gens qui travaillent, qui ont une action positive, et la rente, c'est-à-dire les gens qui se trouvent juste être assis sur la ressource et à qui vous allez payer quelque chose pour qu'ils consentent à s'en défaire. Alors dans le cas du pétrole, la rente, c'est le pays qui détient le gisement. Il y a une variante à la rente, c'est de lui passer sur le corps, hein, chose qu'on a amplement faite dans le passé, parce qu'on a tout le Moyen-Orient a été fait comme ça. Et puis pour le paysan, la rente, c'est enfin pardon, et pour le vent, la rente, c'est le paysan qui va vous dire, bah tu plantes une éolienne dans mon champ, très bien, tu vas me payer quelque chose. Dans les deux cas de figure, c'est des rentes et des salaires. De ce fait, la fraction de la population qui doit travailler pour extraire de l'énergie de l'environnement est d'autant plus faible que cette énergie est déjà concentrée et prête à l'emploi. C'est beaucoup plus efficace avec le pétrole qu'avec le vent. Avec le pétrole, vous avez quelques pourcents, avec les énergies fossiles, il y a quelques pourcents de la population mondiale qui travaille pour extraire de l'énergie. Si je prends une énergie dont le coût d'extraction est 100 fois supérieur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 0,3 centimes le kilowattheure pour le pétrole, stocké 15 centimes le kilowattheure pour l'éolien. D'accord ? Donc je multiplie par 50. À ce moment-là, si j'ai quelques pourcents de la population qui travaille dans l'extraction des énergies fossiles, je dois la multiplier par 50, puisque l'argent ne paye que des hommes, pour extraire la même quantité avec des énergies renouvelables. Alors, employer 4% de la population active pour extraire de l'énergie, je comprends ce que c'est. Employer 200% de la population active pour extraire de l'énergie, j'ai plus de mal. Oui ? C'est un peu dur d'employer 200% de la population active. C'est un peu dur de dépasser 100. Ce qui veut dire que si toute la population active travaillait dans l'extraction d'énergie avec de l'éolien, ça ne me fournirait pourtant que la moitié de l'énergie dont je dispose aujourd'hui, dont je ne saurais pas quoi faire, puisque, soit dit en passant, je n'aurais pas le reste de la population active pour, de cette énergie, faire fonctionner des machines qui nous font nos produits, etc. D'accord ? Donc, dans un monde qui est condamné à n'utiliser que des énergies renouvelables, à cause de ce que je viens d'expliquer, l'approvisionnement énergétique global sera considérablement plus faible. Et donc, le parc de machines qui nous aidera dans nos tâches musculaires sera plus faible. Donc il faudra bien choisir là où on les utilise. Et personnellement, pour continuer un peu dans la provoque, je préfère qu'on utilise ces machines pour aider le paysan à désherber à la main, parce qu'avec des phytos, c'est pas bien. Je préfère qu'on ait trois robots bouffeurs de limaces qui désherbent à sa place, ça je veux bien, plutôt qu'on ait des jets qui amènent des cohortes de touristes chinois qui viennent acheter des sacs au bon marché. Je pense pas que ce soit totalement indispensable au bonheur collectif futur.
Merci.
Après, c'est... j'ai vu deux mains là. Ah, puis là-haut, j'ai jamais regardé, donc je sais pas, ça s'est peut-être levé depuis longtemps là-haut. Au prétoire, maître, vous avez la parole.
Bonsoir. Si j'ai bien compris, vous avez exposé plein de choses, merci pour ça. Et si j'ai bien compris, vous parlez principalement de la situation en France et en Europe.
Non, je vous ai parlé de la situation mondiale sur notre rapport à l'énergie, parce que ce que je vous ai expliqué sur la diminution de la population agricole quand il y a plus d'énergie dans un pays, c'est mondial ça. Ce que je vous ai expliqué sur l'urbanisation, c'est mondial. Ce que je vous ai expliqué sur le fait que les machines avaient augmenté notre puissance musculaire par un facteur de plusieurs centaines, c'est mondial. Donc tout ça est mondial.
De ce côté-là, ok, mais au niveau des planifications, par exemple.
Ah oui, ça, on est d'accord.
Voilà, là c'est plutôt
Ça c'est la France, mais ça c'est à cause du traité de Westphalie, oui.
Et deuxième question, c'est par rapport à la démographie, parce que grosso modo, la population en Europe, ok, elle a augmenté, mais relativement.
Elle va augmenter légèrement jusqu'au moment où elle va se mettre à baisser.
Oui, mais comparé à d'autres populations mondiales.
Ah, on est d'accord.
Et vous parliez de réguler la démographie, par exemple. La Chine, la population a explosé et leur empreinte carbone est en train aussi d'exploser. Du coup, quid de l'échelle mondiale au niveau de la planification,
alors,
de la gestion, au niveau de tout ça ?
En 1600, je ne sais plus quoi. Il y a un traité qui a été mis en place entre les pays de l'époque qui s'appelle le traité de Westphalie. Et le traité de Westphalie dit une chose, il dit les États sont souverains. Les États sont souverains, d'accord ? Depuis cette époque, il n'y a pas l'espoir d'une quelconque gouvernance mondiale. Ça ne peut pas exister parce que Charbonnier est maître chez lui, les États sont souverains. Ce qui veut dire que quand je parle de solution, je ne parle de solution qu'à l'échelle de l'acteur qui est capable de s'en emparer. Donc il n'y a pas de maître du monde, donc personne ne va planifier l'économie mondiale. Il y a quelques maîtres de l'Internet mondial, par exemple, donc eux peuvent s'occuper de planifier l'Internet mondial. Donc si vous voulez changer l'Internet mondial, il faut aller parler à ces gens-là, et il faut aller leur parler, soit dit en passant, en espérant que ça sera dans leur intérêt, sinon ils vous disent « la porte de sortie est par là, mon jeune ami ». Donc comme les États sont souverains, tout ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'essayer d'influer au plus haut niveau où vous avez un décideur, c'est-à-dire l'État. Alors en Europe, on a quelque chose d'un peu hybride, soit dit en passant, parce qu'on a une entité supranationale à laquelle on a délégué un certain nombre de compétences. Donc nous, on peut monter à l'étage encore au-dessus. Et soit dit en passant, les Français le font très mal et très peu. Comme les Français sont les plus intelligents du monde, ça c'est notre défaut, ils pensent que si on fait les trucs bien, l'Europe suivra et que c'est pas la peine d'aller faire le service après-vente. Grosse erreur. La délégation du seul Land de Bavière auprès de la Commission européenne, enfin la représentation du Land de Bavière auprès de la Commission européenne est plus importante numériquement que la représentation française. Plus importante numériquement. Donc nous, on est totalement nuls dans le fait d'aller faire valoir nos intérêts auprès de la Commission, à laquelle, par ailleurs, on a délégué un certain nombre de compétences, dont notamment la réglementation environnementale en Europe. Donc, si on dit qu'on souhaite quelque chose pour un pays, bah, le sol sur lequel on est un peu de prise, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'agir sur des gens qui ont eux-mêmes un pouvoir de nuisance, c'est le pays. Aller à l'étage au-dessus, c'est compliqué. Donc, ce qu'est en train de faire Greta Thunberg en ce moment est très utile pour remuer les cœurs, c'est de nul effet sur les décisions pratiques que pourrait prendre un chef du monde qui n'existe pas. La seule manière que vous ayez de faire mieux, c'est d'être militairement supérieur et de dire au pays d'en face, tu vas faire comme ça, sinon je t'envahis et j'ai les moyens de mon action. Mais même ça, c'est compliqué. Vous voyez, les États-Unis, première puissance militaire du monde, ont essayé d'envahir le Vietnam, ils y sont pas bien arrivés. Parce que évidemment, vous avez toujours quelqu'un en face qui dit, c'est pas bien et je vais aider le camp d'en face. Hein. Ils ont essayé d'envahir l'Irak, ça a été un résultat mitigé. Enfin, ils l'ont vraiment envahi, mais enfin, on voit que c'est un résultat mitigé. Donc, envahir militairement les autres pour les forcer à l'action, même ça c'est limité. Puis vous pouvez envahir un pays, vous pouvez pas en envahir 198, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc la difficulté dans l'action, c'est que vous ne pouvez pas agir d'entrée de jeu à l'échelle de la planète. Donc ce qu'on peut faire depuis la France, c'est déjà commencer par s'occuper de ce que fait la France. Et ce qu'on peut faire pour les pays qui ont une démographie fortement croissante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'occuper de trois trucs qui sont à notre main, puisque ça ne dépend que de nous de dépenser de l'argent pour éduquer les femmes, mettre des plannings familiaux et mettre en place des systèmes de retraite. Enfin, aider les gens à mettre en place des systèmes de retraite. C'est juste l'envie qu'on en a. Donc ces trucs-là, on peut le faire. Forcer, c'est pas possible. Alors, il y a quand même un truc intéressant à noter dans cette affaire, c'est que l'homme est un animal mimétique. Tous les gens dans cette salle qui ont acheté le même t-shirt que la voisine ou le voisin, ou au contraire, surtout pas le même, en fait, ont eu un comportement mimétique. C'est comme ça que nos parents nous élèvent, soit dit en passant. Donc, l'homme est un animal mimétique. Et j'ai la naïveté coupable de penser que si on commence à faire dans notre coin des trucs qui sont pas idiots et explicables, ça donnera des idées à tout un tas d'autres personnes qui sont, à tout un tas d'autres gens qui sont dans la même situation. Alors, en l'occurrence, toute l'Europe est aujourd'hui en contraction énergétique. Donc, si on commence à faire des trucs intelligents chez nous, ça peut diffuser chez les autres. Le Japon l'est aussi. La Corée du Sud va pas tarder à y passer. Les États-Unis aussi. Donc, on peut très bien... mais les États-Unis m'intéressent moins. On peut très bien donner des... Le Mexique va pas tarder à y passer. Donc, on peut très bien donner des armes au travers de limitations à un certain nombre d'autres pays, puis après c'est un phénomène qui croît. Le dernier truc que je voudrais rajouter, c'est que de toute façon dans cette affaire-là, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que les Français adorent se dire il y a une situation cacateuse là, et puis il y a un bouton sur lequel j'appuie, et alors hop, tout se met en place comme par miracle. Ça n'arrivera pas. Donc la seule chose qui peut arriver, c'est qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, on se demande où est la moins mauvaise ou la meilleure dans les possibilités qui sont à notre main. Donc c'est ça qui fait sens. Se demander comment est-ce qu'on fait pour que le monde soit merveilleux demain matin, déjà il faudrait qu'il soit débarrassé de tous les emmerdeurs, donc c'est pas possible. Donc ça n'arrive pas, donc il n'y a pas de baguette magique qui permet de faire ça. Ce qui a du sens, c'est à chaque fois, encore une fois, qu'on est à un carrefour, et on y est très souvent, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, hein, c'est de se dire, je vais aller là plutôt que là. Vu l'heure, on va prendre encore une ou deux questions, non, puis après, aller picoler.
Moi j'ai une question. La planification dont vous parlez, ça passe quand même par le territoire aussi. On a vu qu'il y a eu un grand remembrement du territoire avec les nouvelles régions et aussi le Grand Paris qui est quand même un sujet actuel sur beaucoup d'ingénieurs vont sûrement travailler aussi. Du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Parce qu'il semble qu'avec le Grand Paris ce soit pas vraiment une direction constructive à long terme.
Alors sur ce point vous avez déjà la réponse. À partir du moment où je vous dis ce qui est important, c'est de faire dégonfler les grandes villes, c'est sûr que le Grand Paris va dans la mauvaise direction. Donc non seulement vous allez déménager sur le plateau de Saclay, mais en plus c'est pour une mauvaise raison. Quand même ballot. La deuxième question, c'était sur l'organisation territoriale. En fait, si je renverse le problème et que je considère que le premier déterminant de long terme de la façon dont la société est capable de s'organiser, c'est l'énergie dont elle peut disposer, c'est-à-dire les machines dont elle peut disposer sous contrainte de CO2, d'approvisionnement, etc., je vais renverser le raisonnement, c'est-à-dire que je vais avoir envie de faire un découpage territorial qui soit à la maille de l'action qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas complètement persuadé que la région soit la bonne maille. Si vous voulez faire des choses pertinentes sur les circuits courts, etc., vous allez plutôt être à la maille de la commune ou des départements. Si vous voulez faire des choses intelligentes sur la normalisation, vous êtes de toute façon à la maille de l'État. Ça va vraiment dépendre, et je pense qu'il faut renverser le raisonnement. L'énergie abondante nous a permis de faire abstraction des contraintes spatiales et des contraintes temporelles. Donc du coup, on a pu harmoniser les échelons géographiques de gestion et dire tout le monde aura des départements qui feront à peu près 50 km sur 50 km. Tout le monde aura une commune ou une communauté de communes qui va faire 100 000 habitants. Bon. À mon avis, raisonner comme ça, c'est mettre le raisonnement à l'envers. Ce qu'il faut, c'est repartir du problème à traiter et voir à quelle maille est-ce que vous avez besoin de planifier l'action territoriale. Parce qu'on en revient à aussi un sujet de planification, c'est de l'action territoriale. Après, il y a aussi des choses sur lesquelles ce n'est pas au niveau du territoire que ça se joue. Ou plus exactement, il faut contraindre l'action du territoire. Et alors, je vais revenir sur le sujet de l'urbanisme. Je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il serait probablement pertinent de supprimer le permis de construire aux maires. Parce que tant que vous laissez le permis de construire aux maires, ça sera l'anarchie. C'est-à-dire que chacun se poussera à la roue pour construire encore plus chez lui, parce que ça lui fait plus d'électeurs, parce que ça lui fait une plus grosse commune, parce que toute personne à qui vous avez donné un permis de construire, globalement, il est content, donc il va voter pour vous, parce que, etc. Donc, le permis de construire au maire, c'est la garantie que l'étalement urbain continue de façon illimitée. Parce que ça crée des plus-values, et qu'une partie de la plus-value foncière arrive dans les caisses de la commune. Enfin, toutes les incitations sont là, pour que ça pousse au mitage et au grignotage des terres. Voilà. Donc voilà un exemple où c'est pas le maire qui doit piloter l'action, c'est l'État. Alors que ça doit se faire de manière locale. Mais à ce moment, c'est le préfet, c'est pas le maire. Voilà, donc y a la discussion sur l'action est une discussion qu'il faut replacer, j'insiste, au droit du problème à traiter.
Dernière question.
Et sur la gestion des eaux pluviales, par exemple, à bonne échelle territoriale, c'est le bassin versant, qui n'est ni une commune, ni un département, ni une région, ni rien. Je sais pas, il y en avait une là, et puis depuis longtemps.
Alors moi, ça fait longtemps, donc par rapport aux questions notamment sur la viande, j'ai il n'y a pas longtemps vu un reportage donc sur Netflix. Voilà, qui consomme beaucoup, qui pollue beaucoup. Aujourd'hui, pourquoi nous, on n'est pas sensibilisés à toutes ces questions-là sur la consommation de viande? Donc voilà, je suis tellement dans le système, je suis en école de commerce. Bon, je n'ai pas apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. Mais,
l'économie?
Oui, mais on essaie de prendre conscience, voilà, chacun à notre échelle, de ce qu'on peut faire. Et consommer moins de viande, ça ferait partie de la solution. Quand on apprend que 51% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est dû à la production bovine. Aujourd'hui,
c'est pas 51, non. Ça dépend quel facteur de pondération au biométhane.
En émissions directes et indirectes, en tout cas, on arrive à des chiffres comme ça.
Non, c'est moins.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour sensibiliser aujourd'hui la planète à cette consommation de viande?
C'est moins. L'agriculture, tout compris, c'est 20%. Avec la déforestation, c'est 30%. La déforestation a notamment pour déterminant l'augmentation de la consommation de viande, donc je veux bien les mettre dedans. Et là-dedans, la partie qui vient de la viande, c'est, je veux bien la moitié ou les deux tiers. Donc 2 tiers de 30, ça fait 20, ça fait pas 51. Ça, je veux bien que ça fasse 51 si on prend le PRG du méthane.
Non,
si on raccourcit l'horizon de temps. C'est une affaire de forçage radiatif, c'est pas une affaire de périmètre. Le sujet de la viande, moi je ne suis pas d'accord avec vous, il est, je pense, en train de monter en ce moment. Alors, pour des raisons bonnes et mauvaises. Il monte pour des... Alors, dans les mauvaises raisons pour lesquelles il monte, c'est qu'il y a une fraction croissante des Français qui en mangent moins, tout simplement parce que c'est cher. Ça commence déjà à être un peu plus cher. Il y a des gens qui en mangent moins pour des raisons sanitaires. parce qu'à force de vous rabâcher que de manger une entrecôte bien grasse à tous les repas, ça va vous boucher les artères, il y a des gens qui se disent ben, « je vais y aller un peu plus mollo ». Il y a des gens qui en mangent pour des raisons de moins, pour des raisons de souffrance animale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de monter. Je ne dis pas que c'est important dans la population. Je dis tout ça, c'est des petits machins. Et par rapport à ce qui se passait dans le débat public quand j'avais votre âge, tout ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand j'avais votre âge, j'ai jamais entendu parler de... Si, la souffrance animale, c'était les bébés phoques. Ça, oui. Mais les vaches d'élevage, c'était pas un sujet de souffrance animale. Le sujet des artères, ouais, ça commençait tout juste. Il y avait quand même des histoires de cholestérol. Le sujet de la pression environnementale, alors, c'était un non-sujet absolu. Donc c'est aujourd'hui, moi je trouve que y a quand même un petit quelque chose sur la question. C'est pas encore un débat totalement mainstream, mais il y a quand même un petit quelque chose sur la question.
J'ai le droit de rebondir ou c'est...
Bien sûr.
Mais du coup aujourd'hui voilà, on est en Europe, on a conscience de ça, et aujourd'hui on a des pays émergents, donc effectivement la Chine, l'Inde, et encore on s'occupe pas de l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer puisque ces populations là sont de plus en plus demandeurs de viande? Comment on va faire?
J'en reviens au mimétisme que j'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on dit le régime normal est un régime fortement carné, et en particulier avec des gros animaux, vous savez que historiquement l'augmentation de la taille de l'animal mangé ou de sa qualité a été avec l'augmentation de l'apport énergétique. Henri IV a dit aux Français, mangez donc une poule, donc une valorisation de déchets, parce que la poule avait pondu toute sa vie, et il leur a dit, mangez un peu de viande, de la poule. Bon. Puis on a mangé du cochon, et mangé du bœuf, en particulier élevé pour sa viande, c'est-à-dire pas de l'animal de trait en fin de carrière, c'est quelque chose qui est très récent. Avant, on faisait pas ça. Bon. Donc c'est allé de pair avec l'augmentation de la productivité agricole sur les végétaux. Et aujourd'hui, 80% des surfaces cultivables sont dévolues à la production d'animaux, hein, à la nourriture d'animaux. Donc cette histoire de régime alimentaire est effectivement un déterminant important. Tous les gens qui s'offusquent contre la déforestation à Bornéo et les orang-outans, moi le premier truc que je leur dis c'est est-ce que vous mangez beaucoup de viande et est-ce que vous achetez un truc avec de l'huile de palme, parce que quand vous voyez de l'huile de palme dessus, il y a un petit bout d'orang-outan dedans, voilà ce que je leur dis. C'est quelque chose qui commence à émerger en Occident, et plus vite on voudra que dans les pays dits émergents ils se calment sur ce sujet-là, plus vite il faut que nous on commence par le faire, parce que quelque part on leur sert de modèle, hein. Donc j'en reviens à ce que je disais, moi je ne contrôle pas le régime alimentaire des gens dans les pays émergents. Par contre, ce que je contrôle, c'est ce qui se passe chez moi. Donc chez moi, je peux avoir un discours qui est, si vous en mangez moins, c'est pas le bout du monde. Personnellement, et je dis pas ça pour me vanter, hein, j'ai quasiment arrêté de manger de la viande rouge, je sais pas quoi, 10 ou 15 ans, j'ai pas l'impression de me porter plus mal, et j'ai pas arrêté de manger de la viande. J'en mange moins, voilà, c'est tout. Vraiment pas. Bon. Dans les pays émergents, je le redis, c'est culturel, hein, l'alimentation. C'est quand même un truc qui est fondamentalement culturel. Donc les schémas culturels, c'est lent à modifier. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des gens qui doivent initier un changement, et puis c'est une force, c'est long et c'est lent, et voilà.
Ça sera trop lent.
Ah ben pour finir sur une note d'espoir, de toute façon, vous comprenez bien avec ce que je vous ai raconté qu'une partie de la claque, on va la prendre de toute façon. Bon. Et elle a déjà commencé. Donc dans cet amphi, vous faites partie des CSP++ qui sont préservés des vicissitudes de la vie, mais la claque, elle a déjà commencé. La déshérence des banlieues, elle a déjà pour partie commencé. Le fait que vous ayez la sécheresse de cet été, elle a déjà commencé. Voilà. Donc il y a une partie de la claque, elle a déjà commencé. Donc une partie des arbres qui ont souffert cet été, ils sont déjà morts. Parce que ça va recommencer pas l'été prochain, mais l'été d'après. Donc la claque, de toute façon, on va pas totalement l'éviter. Par contre, est-ce que, comme disait l'autre, puisque tout est foutu, il est encore temps d'être pessimiste? Moi, je dis non. Voilà. Il faut de toute façon se mettre dans l'action, parce que c'est notre meilleure porte de sortie à tout point de vue. D'abord parce que se mettre dans l'action, ça redonne le moral. Et ensuite parce que de toute façon, ça permettra, toutes choses égales par ailleurs, d'avoir un avenir meilleur que si on s'en occupe pas. Voilà.